Le jour de la Sainte Lucie. Nouvelle de Daniel Desjardins. Chapitre 1. Jour de sortie. Dans un hôpital de la région lyonnaise, un samedi 13 décembre à 8 h du matin. C'est un homme de 63 ans qui vient d'être transféré chez nous, docteur. Voulez-vous voir son dossier? Je le consulterai plus tard. Quelles sont vos observations personnelles, mademoiselle? Rythme respiratoire élevé, 40 cycles, pouls accéléré, 100 pulsations minute, beaucoup de fièvre, température 39,5, importante variation de tension. Comportement? Il est inconscient depuis son admission. Réactivité, réflexologie positive, mais quoi, mademoiselle? Eh bien, c'est étrange. Son état ressemble à un coma réactif. Il n'ouvre pas les yeux, il semble ne pas entendre et en tout cas ne répond pas aux questions, mais il présente des périodes de contraction musculaire générale et d'autres de total relâchement, d'atonie complète. Oui, je vois. Signe manifeste de souffrance organique. Placez-le sous perfusion de sérum glucosé plus Fortal. Vous noterez soigneusement toutes les réactions qu'il peut présenter. Bien, docteur. J'ai observé aussi qu'il tousse souvent. Une petite toux réflexe, sèche et sans force. Vous ajouterez de la codéine et vous lui placerez un inhalateur d'oxygène. C'est noté. On ne peut pas le laisser dans cette salle des admissions. Vous transporterez son lit dans une chambre individuelle dès que possible. Je veux un rapport à chaque évolution de son état. Oui, docteur. L'autorail est encore à quai. Essoufflé par sa course, Frédéric monte dans l'automoteur rouge et jaune qui vibre au ralenti du puissant moteur diesel. Au passage, sa vieille valise en carton bouilli cogne la marche. Bon, un choc de plus ou de moins. Un coup d'œil circulaire dans le wagon lui confirme que la rame est pleine. Il va devoir faire le voyage debout, une fois de plus. Bon, il a l'habitude. Une quinte de toux le secoue. Par politesse, il sort un mouchoir de sa poche et le place devant sa bouche. Il n'a pas encore totalement récupéré de son petit accident pulmonaire du mois d'octobre, et l'effort qu'il vient de fournir réveille une douleur au fond de sa poitrine. S'il était parti plus tôt de l'école normale, il n'aurait pas eu besoin de courir. C'est de sa faute. Le médecin lui a pourtant bien dit d'éviter les efforts pendant un certain temps. Un certain temps, un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mois et demi de cela, il devrait être guéri maintenant. Frédéric se secoue moralement et chasse la sourde inquiétude qui vient de s'emparer insidieusement de son esprit. Non, ce doit être à cause de la course qu'il tousse. Et surtout à cause de ce maudit brouillard qui ne s'est pas levé depuis 3 jours. 17 h à peine et il fait nuit. Dans une huitaine de jours, l'hiver sera officiellement là. Mais le thermomètre n'a pas attendu. Les pavés du quai condensent l'humidité ambiante et reflètent les lumières jaunâtres de la gare de Laon. Un employé de la SNCF en uniforme bleu marine vérifie la bonne fermeture des portières, puis agite le côté blanc de son bâton de chef de gare à l'intention du mécanicien. Le son du diesel change, prend une tonalité presque musicale. Avec une petite secousse, l'autorail commence à rouler dans le froid de la nuit picarde. Frédéric s'adosse contre la cloison à côté de la porte de l'automotrice. Il a renoncé à s'asseoir sur sa valise depuis qu'il sait qu'elle ne supporte plus son poids. Il n'a plus envie de faire sourire les autres voyageurs à ses dépens. « Présente-toi le bleu !» hurlaient les anciens au cours des débiles soirées de bizutage lors de son entrée à l'école normale. Mais il n'est plus un bleu maintenant. 3 ans se sont écoulés depuis son entrée à l'école. Il est en 4e année, celle de la formation professionnelle, celle où l'on dit adieu à son adolescence, celle où l'on envisage sa vie d'homme. Frédéric songe sérieusement à son avenir. Il déteste perdre son temps quand il voyage. Alors, oubliant les à-coups transmis par les aiguillages du chemin de fer et les bruyantes conversations des ouvriers rentrant de leur travail, mentalement, il organise son week-end. Comme tous ceux de sa promotion, il va devoir, dans quelques semaines, présenter un mémoire, une monographie, une thèse, comme disent pompeusement certains de ses copains. Les professeurs ont prévenu. À moins de 15 pages, on ne considérera pas votre travail comme sérieux. Et n'oubliez pas que la note que vous obtiendrez comptera dans votre examen du CFEN, le certificat de fin d'études normales, indispensable pour devenir instituteur. Frédéric n'aime pas laisser traîner les choses, déteste être bousculé, être pris par le temps. Alors, il décide de s'y mettre dès maintenant. Il a son sujet. Dès le lendemain matin, il ira à la bibliothèque municipale accumuler un maximum de documentation. Ce qu'il y a de pénible quand on voyage debout, ce sont les coups de frein qui vous déséquilibrent et vous sortent de vos pensées. Vers l'avant de la Micheline, 2 personnes se lèvent, saisissent leurs bagages. Ils descendent probablement à la prochaine gare. Bien la peine de mobiliser 2 places assises pour à peine 10 minutes de voyage. Ils titubent eux aussi. C'est étrange à quel point il est difficile de marcher dans un train en marche. Frédéric les laisse passer avant de s'engager à rebours vers les places maintenant inoccupées. La chambre 613 est libre, on va le transporter. Tiens la porte, Marie, tu veux ? Bon, allons-y. Doucement, ne lâche pas. Fais attention, bon sang, tu cognes le lit. Tu sais, Michel, il est complètement dans le cirage. Il ne peut rien sentir. D'abord, on ne sait pas vraiment ce que l'on peut sentir ou ressentir quand on est dans le coma. Et deuxièmement, c'est pas une raison. 2 personnes occupent les sièges contre la vitre. Une jeune fille aux cheveux et aux yeux clairs est en train de chuchoter à l'oreille d'une brunette au visage mutin qui lui fait face. Au moment où il pose son bagage sur la demi-banquette à côté de la blonde, un dernier coup de frein immobilise brutalement le convoi. Déséquilibré, Frédéric cogne la banquette avec ses genoux, mais réussit adroitement à se rattraper au dossier. Les 2 filles le regardent et pouffent, avant de chuchoter de plus belle. « Mais Michel, tu ne trouves pas qu'il est encore beau pour un homme de son âge ? Il a dû être sportif. Il est bien maigre. C'est normal dans son cas. Mais regarde comme il est large d'épaules. Écoute Marie, c'est pas le moment. » C'est toujours le moment de penser aux hommes. Ça te fait rire ? Et pourquoi non ? Tu crois qu'il peut nous entendre ? C'est très improbable, mais je viens de te le dire, on n'en sait rien. Vous m'entendez, monsieur ? Ça va ? Vous avez mal ? Ici, vous allez être bien soigné, vous verrez. Tu te fatigues pour rien, il ne peut pas t'entendre. Oh, tu sais, chez moi, je parle à mon chat. Aux meubles, à mes plantes quand je les soigne. C'est pour ça qu'elles sont si belles. Et pourtant, elles ne me comprennent pas. Frédéric hausse les épaules et s'assied sans rien dire dans le sens de la marche à côté de la blonde. Il défait soigneusement la sangle palliant la faiblesse des serrures de sa valise, sort son code-soleil, referme le couvercle et remet tout aussi soigneusement la courroie. Pourquoi rient-elles ces idiotes? Ce sont bien des filles. Il décide de les ignorer, ouvre le livre et cherche la page cornée de sa dernière lecture. C'était quoi cette gare? Demande la blonde. J'en sais rien, répond sa voisine. Crépy Couvron, dit-il sans lever les yeux de son manuel professionnel. Pourquoi a-t-il dit cela? Ce n'est pas à lui qu'elle s'adressait. Il aurait mieux fait de se taire. Ah bon, merci, reprend la blonde qui pouffe de rechef. De quoi se moque-t-elle? De qui plutôt? C'est énervant, cette impression d'être la risée des autres sans en comprendre le pourquoi. Surtout quand on est un garçon fier et que ce sont des filles qui rient. Frédéric décide de réagir. C'est moi qui vous amuse? La blonde met une main devant sa bouche, tandis que la petite brune pince les lèvres pour contenir son hilarité. Il les dévisage un peu plus attentivement. La figure de l'une est rouge de gaieté et de confusion, tandis que les yeux noisettes de l'autre pétillent de malice. On se connaît? Les filles se regardent à nouveau et rient de plus belle. Que faire? Il lève les yeux au plafond, secoue lentement la tête avec un air de commisération et replonge dans son livre, bien décidé cette fois à ignorer ces bécassines impertinentes et impolies. Les filles se sont calmées. Maintenant, elles discutent à voix basse. Absorbées par sa lecture, il occulte leur présence. Frédéric possède la rare faculté de pouvoir se concentrer totalement sur son travail. Il sait s'abstraire complètement, quel que soit l'environnement. Chaudrin, Versigny, L'Affaire, Beautor, l'autorail omnibus de Laon à Saint-Quentin dessert toutes les gares. Frédéric connaît par cœur cette portion de ligne qu'il emprunte régulièrement depuis plus de 3 ans. Au premier coup de frein avant la gare de Ternier, il glisse le livre sous la courroie de sa valise et, sans un regard pour ses écervelés de voisines, contrôlant soigneusement sa marche, il se dirige vers les portes de l'autorail. Un quart d'heure d'attente sur le quai gravillonné de la gare de transit. Frédéric bat de la semelle. Son vieil imperméable de gabardine le protège insuffisamment de l'humidité pénétrante. « Pourvu que je ne reprenne pas froid, » se dit-il. Une semaine au lit fin octobre, avec consultation du médecin, radiologue et toute la panoplie de médicaments à cause d'un refroidissement qui s'est porté sur la poitrine, ça suffit. De surcroît, cette satanée maladie lui a fait manquer le début du premier stage pédagogique en établissement. Et bien sûr, ses copains ont choisi les meilleurs postes et lui ont laissé l'école d'application la plus éloignée. Il a les mains et les pieds glacés, Marie. Va vite chercher une autre couverture. Le pauvre, je file à la réserve. Frédéric remonte son col et scrute la nuit vers l'est. Tente de distinguer les lanternes avant de l'express Jeumont-Paris. Rien encore. Un sifflet de locomotive troue la nuit venant de l'opposé. Un train rapide passe sans s'arrêter, le giflant d'air et de vapeur. Soudain, Frédéric sursaute. À 3 pas de lui, attendant le même train, sa voisine de l'autorail. Cheveux bruns coupés courts, la taille bien prise dans un imper ciré qui accroche la lumière des rares réverbères, elle le regarde avec un air intéressé. Ses yeux noisettes pétillent, mais toute trace de moquerie a disparu. « J'ai déjà vu ces yeux-là quelque part, Tu ne ris plus, tu ne te moques plus de moi maintenant? Non, je ne ris plus, et on ne se moquait pas de toi. Ta copine t'a abandonné? Elle ne prend pas ce train-là. Tu vas où? Je suis de Chauny. Je ne te connaissais pas. Tu y habites depuis longtemps? Oui, mais seulement pendant les vacances. Le reste de l'année, je suis interne à Laon. Moi aussi, je suis interne à Laon, à l'école normale. Je sais. Comment ça, tu sais? Je te vois quelquefois sur le petit stade en face de ton école quand tu t'entraînes avec tes copains. La promenade du lycée de filles passe souvent par là. C'est parce que tu m'as déjà aperçu sur le stade que tu riais? Un peu, pas seulement. Quoi d'autre? Avec les copines, quand on passe, on s'amuse à donner des surnoms aux gars qui s'entraînent. Alors, quand elle t'a vu tout à l'heure, Marie-Françoise m'a dit: Tiens, c'est machin. Tu vois, c'était pas bien méchant. Tout dépend du synonyme de machin. Ah, voici notre train. Au passage de la locomotive, le sol tremble. Un nuage de vapeur de nouveau les enveloppe, aussitôt dissipé par le vent du convoi. C'est bon, il y a de la place, viens. Asseyons-nous près de la grande vitre. Comment tu t'appelles? Tu es dans quelle classe? Je m'appelle Marie-Michel, je suis en première moderne. Le bac première partie fin juin alors. Tu as quel âge? J'ai 16 ans, enfin presque. Tu n'es pas en retard, dis donc. Moi, c'est Frédéric. Alors, machin, c'est quoi? Non, je ne veux pas te le dire. Pas maintenant. Plus tard, peut-être. Parce que c'est blessant, dévalorisant? Non, pas du tout. Ridicule? Non plus, je ne crois pas. Honteux? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est juste des bêtises de filles. Alors, je ne le saurais pas? Si, mais pas aujourd'hui. Attends, tu veux dire que tu penses qu'on va se revoir? Je l'espère. Ah, et tu imagines ça comment? Écoute, mes parents sont invités ce soir à la salle des fêtes, au bal des œuvres laïques. J'ai le droit d'y aller avec eux, mais je ne connais personne. Si tu viens et si tu le veux, on pourra danser ensemble. J'adore danser. Cela te tente? Cela me ferait très plaisir. J'avais l'intention de travailler ce soir. Il observe intérieurement qu'il vient d'employer l'imparfait, mais elle ne l'a pas remarqué. Le demi-sourire un peu ironique qui flottait sur ses lèvres s'efface complètement, remplacé par une petite moue déçue. Alors tu ne veux pas? Je ne sais pas. Il faut que je m'organise. L'express de Paris longe maintenant les rougeoyantes usines de laminage et de tréfilerie précédant l'arrivée en gare de Chauny. On arrive. Tu habites où? Dans la chaussée, après le pont du chemin de fer. Je connais. Tu veux que je te raccompagne? J'aimerais bien, mais non. On vient me chercher. À ce soir, Frédéric? Je ne sais pas. Peut-être. Dans la salle des pas perdus de la gare, qui sent la sueur et le tabac froid, il pose sa valise au sol et regarde la mince silhouette prendre de l'avance. Que de légèreté dans cette démarche. Les plis de son ciré accrochent encore la pâle lumière des lampes à incandescence. Elle se retourne à demi. Il croit discerner un sourire sur le visage juvénile. Elle passe la lourde porte grinçante qui se referme automatiquement derrière elle. Frédéric sort un paquet de gauloises de la poche de son imperméable. La fumée de l'âcre tabac brun le fait à nouveau tousser. Avec une grimace, il éteint la cigarette sur la semelle de sa chaussure, la remet dans le paquet. Il faut que je m'abstienne encore quelque temps. Quand, à son tour, il arrive sur la place de la gare, il a le temps de la voir monter à l'arrière d'une 4 chevaux Renault grise qui démarre dans un nuage de fumée bleue. Il tousse à nouveau et cela l'énerve. Il a envie d'être guéri, totalement. Mais il oublie aussitôt ce souci médical et sa pensée, comme aimantée, retourne vers la fille. Marie-Michel, elle est bien mignonne, cette petite, bien jeune aussi. Au fond de lui-même, la question ne se pose déjà plus. Il le sait. Il a envie d'aller à ce bal. Chapitre 2. Un beau soir de décembre. Sur le chemin de la maison de ses parents, Frédéric ne sent plus la froidure humide du temps, ni le petit vent aigrelé qui vient de se lever. Il ne voit pas la triste enfilade des maisons de briques rouges, ni la grisaille caillouteuse du ballast du chemin de fer qui borde la rue. Il entend à peine le coup de sifflet avertisseur d'un train rapide qui traverse la gare à pleine vitesse, ne perçoit pas l'odeur acide des fumées d'usine mêlée à la senteur nauséeuse de l'eau croupie des caniveaux. Il sait qu'il ne pense à rien, car les mots en lui ne se formulent pas. Et pourtant, il est incapable de libérer son esprit. Tout sens annihilé, il avance machinalement dans un monde sans attrait. Son subconscient connaît le chemin. Au moment de pénétrer dans le dédale des venelles qui desservent l'arrière des logements de la cité ouvrière, il reprend conscience, s'étonne de se trouver là. Il secoue la tête pour se replonger dans la réalité, se compose un visage avant d'entrer dans la petite cour donnant dans la ruelle. En 2 enjambées, il monte les 4 marches de pierre. Une bouffée de chaleur et d'odeur l'assaille quand, souriant, il ouvre la porte donnant directement dans la cuisine. Sa mère s'affaire à l'évier et son père lit le journal. La cuisinière à charbon est allumée. Un pot-au-feu mijote à l'écart du foyer principal, mêlant ses effluves appétissants aux émanations oppressantes de la combustion de l'anthracite. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Il a du mal à respirer, comme s'il était oppressé. J'augmente le débit de l'arrivée d'oxygène. Regarde bien comment je fais, Marie. Frédéric, c'est toi. Tu en as mis un temps pour arriver. Ton train est passé depuis plus d'un quart d'heure. Bonjour, maman. Oui, j'ai un peu discuté avec un copain à la gare. Bonjour, papa. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement la vérité? Il ne se sent pourtant coupable de rien. Il pose sa valise, distribue à chacun les 4 bises réglementaires de proches qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, tombe son imperméable et son blouson. « Tu as bien travaillé pendant ces 15 jours ?»« Comme d'habitude. Ça va alors ?»« Oui, ça va bien. Ce qu'on fait cette année est très intéressant. On a des cours de pédagogie, de psychologie de l'enfant, d'agronomie et même de secrétariat de mairie. C'est très bien tout ça. Ça devrait te servir dans ton futur métier. Tiens, à propos de métier, je sors ce soir. Ah, où veux-tu aller? Au bal des œuvres laïques. Tu veux aller au bal? Avec qui? Aux personnes en particulier? Pourquoi est-ce qu'il monte à nouveau? Il n'a pas envie de parler, c'est cela, pas maintenant. En réalité, il a peur de laisser échapper un mot qui déclencherait l'inévitable inquisition. Il a envie d'être seul et de réfléchir, de s'analyser tranquillement. Mais, après 15 jours d'absence, ses parents ne comprendraient pas. Il faut qu'il trouve un argument convaincant. Il y aura beaucoup d'enseignants à ce bal, Cela peut être intéressant pour moi. Je pourrais me renseigner sur les postes vacants à la rentrée de l'an prochain. Peut-être, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Fernand? Laisse-le y aller, va, c'est de son âge maintenant. On peut manger tôt. Tu n'as qu'à mettre la table, c'est prêt. Tu ne manges pas beaucoup, tu n'as pas faim? Tu n'aimes plus ma cuisine? Si, si, c'est très bon. Mais simplement, à Léen, ce midi, on nous a servi des frites. J'en ai repris. Alors, ce n'est peut-être pas bien prudent de sortir ce soir après ce que tu as eu. Qu'est-ce que tu en penses, Fernand? Écoute, Pauline, c'est à lui de sentir s'il peut ou pas. Tu as encore une petite mine. Tu es sûr que tu n'as plus mal au poumon? Je n'ai plus mal du tout, rassurez-vous. Fernand, tu crois vraiment qu'il peut sortir? Il a 19 ans, il sait ce qu'il doit faire. Bon, il faut que je me prépare, je dois me raser. Tu as besoin de l'évier tout de suite? Il n'y a pas de salle de bain, ni même de lavabo dans les logements de la cité ouvrière. C'est un luxe encore réservé aux bourgeois. L'évier est le seul point d'eau de la maison. J'ai la vaisselle à faire, Frédéric. Pourquoi veux-tu te raser le soir? Il faut que je sois bien présentable, tu comprends? À mon avis, tu es très bien comme ça. Oui, peut-être, mais je préfère. Bon, vas-y, pousse les assiettes sur le côté. Tiens, il n'y a plus de dentifrice? J'ai laissé mon tube à Léen. Comment je vais faire? Puis alors. Ne sois pas grossier. Tu n'as qu'à mettre un peu de bicarbonate de soude sur ta brosse. Ça marche aussi bien que le meilleur dentifrice. Demande à ton père. C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai, répond son père avec son bon sourire ébréché. Mon costume est dans la chambre du haut, dans la grande armoire. Ma belle chemise et ma cravate du dimanche aussi. Tout est là-haut. Je vais chercher ce qu'il te faut, sinon tu vas encore tout me retourner. Merci, maman. Tu rentres à quelle heure? Je n'en sais rien, mais je vais prendre une clé, je ne ferai pas de bruit. Pas trop tard, hein? Tu es encore fatigué? Oui, sois tranquille. Et tu mettras ton cache-colle. As-tu encore assez d'argent? Je n'ai presque rien dépensé ces 15 jours. Il me reste encore 700 francs. C'est plus qu'il m'en faut. Le poids qui comprimait la poitrine de Frédéric s'évacue. Tous les obstacles sont levés. Il respire presque librement maintenant. Il est 9h30 du soir quand il sort de la maison. L'air froid de la nuit provoque en lui un nouveau besoin de tousser, mais il se retient. Sa mère est probablement encore derrière la porte. Sa mère qui s'inquiète toujours. Pas facile de réussir à faire ce qu'on veut sans causer de la peine à ses parents. Jamais il n'a osé, ni seulement voulu les affronter. Ils sont parfois trop présents, surtout sa mère, mais si gentils avec lui. Il sait très bien qu'avant la fin du mois, il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie des commissions. La paye d'un ouvrier de la SNCF ne permet aucun écart de budget. Et pourtant, il n'a jamais manqué d'argent de poche. Mais c'est vrai qu'il se sent obligé de tout justifier, de toujours demander, sinon des autorisations, du moins des consentements. Frédéric n'a pas l'habitude d'aller au bal, mais il n'est pas inquiet. Il sait danser, enfin un peu, suffisamment en tout cas pour être ni potiche ni ridicule sur la piste. Chaque année, l'école normale organise un thé dansant, alors. Il n'a pas peur des filles non plus, même si, depuis 2 ans, depuis une première amourette qui a tourné court, il n'a plus voulu avoir de petite amie attitrée. En fait, Frédéric n'aime pas les aventures sans lendemain et ne court pas les bals en quête de bonne fortune, comme le font quelquefois ses copains de promotion. Il préfère se réserver pour celle qui sera la femme de sa vie. La plupart du temps, il préfère étudier lire ou faire du sport. Pourquoi donc a-t-il accepté cette invite d'une gamine effrontée? Est-ce pour elle, ou bien plutôt pour échapper quelque peu à l'atmosphère étouffante de la maison? Comment s'appelle-t-elle déjà cette petite écervelée? Ah oui, Marie-Michel. Marie-Michel, mince et souple dans les reflets brillants de son imperméable ciré, avec ses jolies jambes aux mollets bien galbés, laissant deviner les muscles. Tiens, il a remarqué ses jambes. Ce n'était même pas volontaire. Il essaie mentalement de reconstituer son visage, mais à part les cheveux, courts, sombres, coiffés un peu à la garçonne, impossible. Est-elle jolie seulement? Elle n'a ni la mollesse, ni la langueur atone de beaucoup de filles de cet âge. Ça, c'est certain. Il ne supporte pas. Il ne l'aurait même pas écoutée. Pas d'acné sur la figure non plus. Les boutons sur le visage d'une fille, il remarque tout de suite et ça le dégoûte. Vive, piquante, l'air spirituel. Féminine, sans être femelle, tout cela il l'a enregistré. Passivement d'ailleurs, car il n'avait vraiment aucune intention à son sujet. C'est plutôt elle qui... Les lumières de la salle des fêtes débordent sur le trottoir. Frédéric entre dans le grand hall illuminé, se dirige vers le vestiaire, pose sa gabardine et son foulard sur le comptoir en échange d'une contremarque de carton. Près de l'entrée, assise derrière une table encombrée d'une boîte en fer blanc servant de caisse, de plusieurs carnets de tickets et d'un plan de salle, une dame, entre deux âges, multiplie les sourires de circonstance. « Jeune homme ?» Une entrée, s'il vous plaît. Voilà. C'est 250 francs. Vous avez une table? Non. Vous avez eu raison de venir tôt. Il m'en reste quelques-unes. Près de l'orchestre? Non, s'il vous plaît, je... Ah, tenez, j'en ai une bien placée, là, au milieu, contre le mur. D'autorité, la dame coche un petit rectangle sur son plan. C'est 250 francs aussi. Il peste intérieurement contre sa timidité. Il suffit que quelqu'un lui parle d'un air assuré pour qu'il ne sache pas dire non. Il n'avait pas du tout l'intention de louer une table, mais ne se sent pas l'énergie d'aller contre le fait accompli, alors il paye. Quelle idée il a eue de venir à ce bal! Maintenant, pour peu qu'il offre une consommation, son budget du mois sera épuisé. Bon. Il n'achètera pas de cigarettes pendant 15 jours et ne s'en portera que mieux. Il ne va pas gâcher sa soirée maintenant. Ce qui est fait, est fait. Il pénètre dans la salle des fêtes, bruyante des conversations, des cliquetis de la verrerie du bar, des sons discordants des instruments qu'essaient les musiciens. Frédéric balaye du regard l'assistance encore clairsemée. Quelques visages lui sont familiers, d'anciens camarades d'école primaire probablement, perdus de vue depuis trop longtemps pour qu'ils aient encore des préoccupations communes. Il jette un œil sur son carton de réservation. Numéro 13. Avoir la table numéro 13 le jour de la Sainte-Lucie, c'est sûrement un signe. Chapitre 3. Le bal des œuvres laïques. La dame des billets dit vrai. La table est bien placée. À mi-distance de l'orchestre et de l'entrée, elle permet d'avoir une vue globale sur la salle sans être assourdie par les cuivres de la musique ni gênée par les évolutions des danseurs. Assis sur la banquette de velours rouge qui équipe un côté de la table, dos contre le mur, il regarde les évolutions des quelques couples qui, sûrs de leur technique et objets de tous les regards, ont osé se lancer les premiers sur la piste. Il est 10 heures du soir. Elle n'est pas là. Viendra-t-elle seulement? Elle s'est peut-être vantée. Elle est bien jeune pour participer à un bal de nuit. Ses parents sont invités, a-t-elle dit. mais ils n'auront peut-être pas eu la possibilité ou l'envie de venir. Il aura perdu sa soirée et son argent. Il regarde à nouveau la salle de bal. Des jeunes filles, il y en a. Faute de cavaliers, certaines dansent entre elles. Évidemment, ce ne sont pas les plus jolies. Il n'a pas bien envie d'aller inviter une inconnue. Cela se fait pourtant. C'est même un bon moyen de lier connaissance, de sympathiser, et plus, pourquoi pas. Mais non, décidément non. Pas tout de suite en tout cas. Après les premiers morceaux de musique, vifs, dynamiques, entraînants, destinés à donner le ton de la soirée, l'ambiance lumineuse baisse. La musique se fait plus douce, langoureuse, intime. La piste est rapidement remplie de couples enlacés. Une boule à facettes réfléchissantes envoie des taches colorées sur les murs de la salle, pendant que deux projecteurs, placés de chaque côté de la scène, diffusent une lumière violette qui fait ressortir les parties blanches des vêtements des musiciens et des danseurs. L'effet est magique. La scène est irréelle. La danse dure longtemps, car dès que la musique cesse, des applaudissements réclament une prolongation. Quand la lumière se rétablit, Frédéric regarde une fois de plus vers la porte dans l'espoir de plus en plus ténu de la voir arriver. Des valses succèdent à la série de slow. La piste est plus clairsemée maintenant. Beaucoup de danseurs ont regagné leur place et se rafraîchissent. Soudain, son cœur manque un battement, puis se met à taper plus vite, plus fort. À 5 travées de table de l'endroit où il se trouve, plus près de l'entrée, 3 personnes viennent de s'installer. Un couple d'une 40aine d'années accompagne une jeune fille vêtue d'une jupe rouge et d'un corsage blanc. Elle lui tourne le dos, mais déjà il sait. Elle n'a pas menti, elle est venue. Elle est là, c'est Marie-Michel. Frédéric laisse passer quelques mesures du tango qui a succédé à la série de valses avant de se diriger vers la piste, puis vers les nouveaux arrivants. Un soudain accès de timidité l'empêche d'aller plus loin. Il s'arrête au bord de la première des 3 rangées de tables et regarde la jeune fille avec intensité. Elle réalise soudain sa présence et a comme une sorte de commotion. Elle se lève vivement, dit un mot au couple qui l'accompagne et vient vers lui avec un sourire ravi. Elle a des sourcils arqués qui donnent un air étonné à ses yeux noisettes. Ses pommettes haut placées lui confèrent une petite touche d'exotisme. Son nez est très légèrement aquilin. Sa bouche expressive est avivée du même rouge que sa jupe. Tout en elle est harmonieux. L'image se grave dans sa mémoire. Il vit ce moment fugace et récurrent qui conditionne toute une vie. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Marie-Michel.
Elle est d'une légèreté incroyable. Devine toutes les évolutions qu'il lui demande. Assez piètre danseur, il se sent presque bon avec elle. Ainsi tu as pu venir?
Je suis si contente.
Ne te voyant pas arriver, j'allais me décider à repartir, tu sais. Mes parents ont traîné pour le repas, pour la vaisselle, pour s'habiller. Je bouillais littéralement.
Il y a longtemps que tu es là?
J'étais dans les premiers.
Tu n'as pas dansé?
Non, je n'en avais pas envie.
Et maintenant?
Maintenant, ça me plaît bien. Et toi?
Moi, j'adore danser. Je pourrais danser toute la nuit.
On sent tout de suite que tu aimes. Il ne regrette plus rien. Ni son travail qui attendra, ni l'argent qui va probablement lui manquer, ni les petits mensonges à ses parents. Il évolue dans un état proche du dédoublement onirique dans lequel tout ce qu'on entreprend réussit et où rien de désagréable ne peut arriver. Pourtant, sur la piste en parquet, les couples manœuvrent de plus en plus difficilement
et les contacts entre les danseurs se multiplient. Il essaie de protéger sa cavalière de son mieux, mais ne peut lui éviter le coup d'épaule d'un danseur exubérant en démonstration de tango qui la déséquilibre. Il la maintient d'un bras ferme, hésite à interpeller le rustre qui ne s'excuse pas. Il renonce pour ne pas provoquer de bagarre. Il n'est pas venu pour cela. Tu as vu ce paysan en représentation? Heureusement que t'es costaud, dis donc. Plus encore que tu ne crois. Frédéric serre la jeune fille contre lui, la soulève totalement de quelques centimètres et continue la danse. Arrête, tu m'étouffes! Je te crois, je te crois! Restes-tu jusqu'à la fin du bal? À quelle heure finit-il? Vers 2 heures du matin, je pense. Tu es fou! Mes parents ont parlé de minuit, pas plus. Ah! Alors, je te retiens pour la prochaine danse, si ce n'est pas une valse, bien sûr. D'accord, toutes les danses de la soirée, si tu veux. Tu crois que tu pourrais venir à ma table? Tu m'invites? Ça me ferait très plaisir. Il faut que je demande. Essaie d'être persuasive. Frédéric est retourné s'asseoir à la table 13, mais ne perd pas de vue celle de sa nouvelle amie, essaie de suivre de loin la discussion. Une onde d'anxiété l'effleure quand il voit les parents de Marie-Michel se lever et la jeune fille jeter un gilet blanc sur ses épaules. Il a l'impression que son cœur se vide de son sang. Ils ne veulent pas. Je les serrais trop fort pendant la danse et ils ont tout vu. Ils ne sont pas contents et ils s'en vont. Mais Marie-Michel revient vers lui. Un sourire radieux éclaire son visage. Mes parents sont d'accord. Ils acceptent même de prolonger jusqu'à minuit et demi. Je ne sais pas ce que tu leur as fait pour qu'ils disent oui comme ça, sans restriction. Ce n'est pas leur habitude. Rien du tout. Je ne les connais pas et eux non plus. Détrompe-toi, ma mère te connaît. Impossible, je ne l'ai jamais vue. Tu n'as pas été malade il y a un peu plus d'un mois? Comment sais-tu cela? Quel rapport? Je sais beaucoup de choses. Allez, explique. Tu es allé passer des radios, n'est-ce pas? Oui, alors? Ma mère est assistante médicale chez le radiologue et elle m'a dit « Tiens, j'ai vu ton copain normalien au cabinet, mais ce qu'il a n'est pas grave. » Tu vois comme c'est simple. Comment pouvait-elle savoir qui j'étais et que tu me connaissais? Je t'avais vaguement montré de loin une fois. Et elle s'est souvenue. Allez, viens danser. Elle se lève, le tire par la main, l'entraîne au milieu de la piste, impose sa jeune volonté. Elle se colle à lui, écrase sa poitrine menue contre lui, ses jambes se collent aux siennes et il se laisse faire, ravi. Il danse, au hasard de la musique et des espaces, passe sans le rechercher ni l'éviter, non loin des parents de Marie-Michel. Rien dans l'attitude de ceux-ci ne suggère la réprobation. Marie-Michel est tour à tour tendre, vive, douce, enjouée, visiblement heureuse. Sa fragilité n'est en fait qu'une apparence. Elle déborde d'énergie et de dynamisme. Alors il oublie les soucis qu'il s'impose quotidiennement par son naturel trop sérieux. Il danse sans arrêt. S'initie aux nouveautés comme le rock'n'roll et le cha-cha-cha. Il essaie même de tenter une valse maladroite. Le monde vient de changer. Il vient de changer le monde. Sur la banquette où ils sont revenus s'asseoir et récupérer, Frédéric ne se permet pas le moindre geste déplacé à l'égard de Marie-Michel. Les mots sortent de sa bouche, sans calcul, sans même qu'il ait décidé. Lui qui d'habitude mesure soigneusement ses paroles. Tu sais, ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je me sens bien, je suis heureux. Elle tourne la tête, le regarde franchement dans les yeux. L'étincelle de malice qui les fait briller a disparu. Sa voix a changé, et c'est d'un ton presque grave qu'elle murmure. Tu es sincère? C'est pas du baratin, au moins. Tu sais, ou peut-être ne le sais-tu pas encore, ce que j'apprécie le plus chez les gens, c'est la franchise. Quand je dis quelque chose, je le pense. Non, ce n'est pas du baratin, comme tu dis. Leurs lèvres se touchent sans qu'il l'ait prémédité, parce qu'elle s'est penchée vers lui pour mieux écouter sa réponse, parce qu'une pulsion irrésistible s'empare de lui. Il sent l'abandon de l'enfant et de la femme dans la fraîcheur de ce baiser spontané. La tête de la jeune fille se niche contre son épaule. Il a conscience au plus haut point que l'instant qui vient de s'écouler est le plus important de sa vie. Tu ne veux plus valser? J'aime beaucoup le rythme de la valse. J'apprécie de voir les gens qui la dansent bien, mais tu as pu te rendre compte que ce n'est pas mon point fort. Ça fait rien, je suis bien avec toi même sans danser. Tu te rappelles ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as dit, pas aujourd'hui. Tout à l'heure? À quel propos? À propos de machin. Oh non, tu penses encore à ces bêtises? J'aime bien savoir. Tu ne te fâcheras pas? Promis. Eh bien, avec les copines du lycée, et en particulier avec Marie-Françoise, la blonde? Oui, on s'amuse à donner des surnoms à tous les gars qu'on remarque. Par exemple, ton copain, celui qui s'entraîne à la course sur le stade avec toi, c'est Gédéon. Il va être content quand je lui dirai. Non, s'il te plaît, Marie-Françoise est amoureuse de lui. Ah bon. Et moi, tu me jures de ne pas te mettre en colère. Promis. Toi, c'est Gonzague. Pourquoi ce sobriquet? Comme ça, sans raison, parce que ça nous passait par la tête. Une expression à la fois mutine et inquiète apparaît sur le visage de la jeune fille pendant que ses pommettes rosissent. Tu n'es pas fâché? Je ne te cache pas que je préfère mon nom. Frédéric, j'aime beaucoup. Que fais-tu demain? On peut se voir? J'ai du travail, il faut que j'aille à la bibliothèque. Je peux venir avec toi? Ça ferait plaisir, mais tu vas peut-être t'ennuyer. Sûrement pas. J'adore la lecture. Je passerai à 10 heures devant l'église Notre-Dame. Oh, j'aperçois mes parents qui s'agitent. Retournons vite danser. Avez-vous trouvé une chambre pour notre client, mademoiselle? Je l'ai placé dans la chambre 13 au 6e. Son état? Il est toujours inconscient, mais la fièvre est un peu tombée. Il ne tousse presque plus. La codéine. Un signe encourageant, il bouge faiblement la tête de temps en temps. Ce n'est plus simplement un coma réactif. Je trouve que son visage est moins crispé, plus détendu. Il a l'air de moins souffrir. Le fortal. À l'observer de près, on dirait qu'il exprime des émotions. J'ai même cru un instant qu'il souriait, mais c'était si fugace que c'est peut-être mon imagination. Contentons-nous de faits objectifs, mademoiselle. Les mouvements que vous avez observés constituent cependant un élément positif encourageant. Continuons le traitement avec les mêmes dosages. Chapitre 4 Un lendemain qui chante. Frédéric se réveille naturellement à 7 heures, tant est forte l'habitude prise à l'internat. Il s'étire de bien-être dans la tiédeur du lit de la chambre sans chauffage. Sa pensée se fixe immédiatement sur Marie-Michel. Cette fois, il n'a pas besoin de recomposer son image. Elle s'impose à lui d'emblée. Le visage mobile et expressif où l'espièglerie chasse rapidement les moments de sérieux. Le corsage blanc, soyeux, où moussent quelques points de dentelle. La jupe écarlate dont les envolées laissent entrevoir la frange claire d'un jupon. Les chaussures noires à petits talons aiguilles qui affinent encore un peu plus ses jambes bronzées. Frédéric s'attarde longuement à cette évocation qui le ravit, reconstitue cette merveilleuse soirée de la Sainte-Lucie. Quand, vers 8h30, il se lève et ouvre les persiennes métalliques, le brouillard commence à s'estomper. Le blanc laiteux du ciel laisse présager une journée splendide. Quelques cliquetis de vaisselle choquée, audibles à travers le plafond de la cuisine que surmonte sa chambre, lui apprennent que ses parents sont levés et s'activent. Il saute dans ses habits, descend 3 à 3 le raide escalier. « Bonjour maman, bonjour papa. »« Ah, Frédéric, je t'ai entendu te lever. Ne descends pas l'escalier aussi vite, un jour tu vas te casser les reins. »« As-tu assez dormi ?»« Oui, j'ai très bien dormi. » »« Ah, il va faire beau, je crois. » »« C'est qu'on va vers l'été. Hier, c'était la Sainte-Lucie, » répond son père. « Tu plaisantes, papa ?»« À peine. À partir d'aujourd'hui, les jours commencent à rallonger. » À la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce. Je ne crois pas que les jours rallongent, papa. Le jour le plus court, c'est au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre, et nous ne sommes que le 13, enfin le 14. En réalité, les jours rallongent un peu le soir et continuent à diminuer le matin. Tu peux vérifier sur le calendrier des postes. Content de la diversion, Frédéric enchaîne. C'est étonnant, ça. Je vais regarder. Tenace, sa mère relance le sujet qui lui tient à cœur. L'inquisition commence. À quelle heure es-tu rentré ? Son père, un instant complice tacite, hausse discrètement les épaules. Un peu après minuit, pourquoi ? Au moins, j'ai entendu 2 fois sonner les cloches de Notre-Dame. Je t'ai réveillé ? Pourtant, j'ai fait attention. Je ne dormais pas. Et tu as encore fermé les portes de la cage d'escalier. L'air chaud de la cuisine ne peut plus monter. Je n'ai pas eu froid. Après ce que tu as eu, ce n'est pas prudent. Tiens, voilà ton bol de café au lait. Mets du beurre sur ta tartine. Il est bon, je l'ai acheté à une paysanne au marché. Tu as rencontré des instituteurs ? Il y en avait, oui. Tu as dansé ? Un peu. Avec qui ? Oh, j'ai retrouvé par hasard une copine de l'an. Ah bon ? On la connaît ? Oh, je crois pas. Comment est-elle ? Son père tente une nouvelle fois de l'aider. Laisse-le donc tranquille, Pauline. Non, c'est bon, papa, je peux répondre. Elle est normale, brune, lycéenne, et c'est tout. Bon, ce matin, je dois aller à la bibliothèque municipale. J'ai besoin de documentation pour mon mémoire. C'est quoi ton mémoire ? Poursuit son père. Les défenses et les fortifications de la ville à travers les âges. Il n'y a pas de fortification à Chauny ? Oui, mais il y en a eu. Satisfait d'avoir dévié la conversation sur un terrain plus solide, Frédéric remercie mentalement son père de son aide complice. Il finit de boire son bol de café au lait et s'installe à l'évier pour la toilette, rase avec un soin méticuleux une barbe qui n'a pas repoussé, brosse consciencieusement ses dents en bicarbonate, claque au gel de coiffure quelques cheveux rétifs, éteint d'un doigt mouillé de salive une dartre qui avive son front. Enfin, satisfait de l'image que lui renvoie la vieille glace piquée, il remonte dans sa chambre, enfile un pull à col en V sur sa chemise de la veille, prend veste, écharpe et gants de peau, cadeau de Noël de l'an dernier, et redescend en chantonnant un air du bal de la veille.
Souviens-toi de ce tango des jours heureux.
Bon, je vais travailler. Je ne rentrerai pas avant 12h30. Mais la bibliothèque ferme à 12h. Oui, je serai donc là vers 12h15, 12h30. C'est pour éviter que vous m'attendiez. Frédéric sort quelques feuilles de copie de son vieux cartable de cuir, vérifie le plein de son stylo, puis, soulagé, sort par la venelle. Il aime bien ce couloir en dédale, terrain de jeu de sa première enfance. La brume du ciel s'est dissipée, le vent est nul, et le soleil de cette toute fin d'automne montre encore un peu de vigueur. L'horloge de l'église lui indique qu'il est 10h05. Les cloches carillonnent à toute volée, annonçant la messe chantée. Comme nombre de paroissiens, il se dirige vers l'église, mais n'en franchit pas le portail latéral. À l'inverse de ce qu'il a dû faire tant de fois dans son enfance, il continue vers la rue principale, regarde de tous les côtés, s'attarde à la devanture du libraire. Un début d'inquiétude l'oblige à consulter sa montre. Il n'est que 10 heures. Il revient sur ses pas, entend les premiers accords de l'orgue à travers les vantaux de l'église. La grand-messe commence. Un début de prière informulée, relent de son éducation, remonte jusqu'à ses lèvres. Mon Dieu, faites pour qu'elle puisse. 10h05, toujours personne. Elle n'a sûrement pas pu obtenir la permission de sortir. D'ailleurs, elle n'avait rien promis. Le soleil lui semble moins brillant maintenant. Les brilles des maisons plus ternes, les pavés du trottoir plus inégaux. Il se prend à tousser, nerveusement. Il avale sa salive avec difficulté. Une boule vient de se former dans sa gorge qui le presse douloureusement. Des pas précipités sonnent sur le pavé. Frédéric se retourne. C'est elle. Marie-Michel finit en courant les quelques mètres qui les séparent encore. Elle est venue. Il a un arc-en-ciel dans le cœur. Elle se jette contre le garçon et lui tend ses lèvres sans phare. Elle est merveilleuse de jeunesse et de fraîcheur, dans un manteau beige à pieds de poule saumonné, avec son visage doré par le soleil du matin et ses yeux noisettes qui brillent de bonheur. Frédéric n'aime pas se donner en spectacle, mais là, il oublie toutes les conventions, les hypocrisies, les a priori dont on l'a abreuvé depuis sa naissance. Il presse la jeune fille contre lui, étouffe à la source les mots d'excuse qu'elle veut formuler. « On y va ?»« On y va. Je suis tellement heureux que tu aies pu te libérer. Mais tu sais, ça ne va pas être drôle pour toi. Je vais devoir travailler. »« J'aime beaucoup les livres. Je lis énormément. Je pourrais feuilleter pendant que tu compulseras ta documentation. Qu'est-ce que tu dois faire ?»« Dans 3 mois, comme tous les normaliens en formation professionnelle, je dois présenter un mémoire. J'ai besoin de consulter des documents qui retracent l'évolution des défenses de la ville. Il existe un livre sur ce sujet, mais malheureusement, il s'agit d'un manuscrit original et je n'ai pas le droit de le sortir. Il est enfermé dans une vitrine. Je peux juste le consulter sur place et prendre des notes. Si tu veux, je peux t'aider, recopier les textes qui t'intéressent. J'écris vite et bien, tu sais. Tu es la plus gentille. Je veux bien. On empruntera notre stylo à la bibliothécaire. Que fais-tu cet après-midi? Tu peux sortir? J'ai bien peur que non. Je vais voir mes grands-parents. Tu rentres au lycée de l'an ce soir? Ah oui, il faut bien. À quelle heure? Je prends l'express de 6 heures. Ah, c'est formidable, moi aussi. Non loin de la gare, sous le pont de la chaussée où ils viennent de se retrouver, Frédéric pose son bagage, profite de l'ombre complice pour serrer Marie-Michel contre lui, mais elle ne lui tend pas ses lèvres. Étonné, il cherche à imposer une volonté qu'elle refuse à nouveau. Il met doucement les mains de chaque côté du visage de la jeune fille, l'éloigne de lui, capte un regard où perce l'anxiété. Il demande doucement. Pourquoi ? Elle a une mimique d'excuse, mais ne répond pas. Il réitère sa question. Pourquoi, Marie-Michel ? Tu as vu mes parents ? Hier ? Bien sûr, ils t'ont fait la morale. Non, ce n'est pas cela. Simplement, le monsieur que tu as vu n'est que mon beau-père. C'est d'ailleurs à cause de cela que je suis interne à Lens. Mon vrai père est mort d'une maladie des poumons quand j'étais petite. Voilà, c'est tout. Tu veux toujours m'embrasser? Pour toute réponse, il reprend sa tentative, réussit à imposer sa force, échange longuement son souffle avec la jeune fille. Elle ne s'oppose plus. Il perçoit une immense gratitude dans cet abandon. Après l'élan spontané qu'en aucune façon il ne regrette, vient la réflexion. Pourquoi cette attitude de sa part maintenant, alors qu'hier soir et même ce matin? Scrupule ou bien petit jeu pour le tester? Peut-être aussi a-t-elle besoin d'une épaule amie, d'un grand frère, en plus d'un amoureux. Que se passe-t-il en réalité dans cette jolie petite tête de femme-enfant? Dans le train qui les ramène à Laon, ils sont assis l'un près de l'autre sur la même inconfortable banquette. Frédéric met le bras sur les épaules de la fille qui accepte spontanément la symbolique protection et se blottit contre le flanc du garçon. Ensemble, ils regardent les lumières des maisons qui s'éloignent dans la magie de la nuit. Communient dans un même silence complice. Il sait qu'hier, il a rencontré son destin. Au plus profond de lui-même, il a compris que maintenant, ses ambitions, son avenir, sa vie, c'est elle. Une sensation diffuse, dont il avait seulement soupçonné l'existence dans ses rêves d'adolescent, vient de naître en lui. Quelque chose vient de se transformer dans sa poitrine. Pourtant, en dépit de l'élan formidable qui le pousse, il ne lui a pas encore dit le moindre mot d'amour. Les mots sont trop pauvres pour exprimer ce qu'il ressent. Frédéric n'aime pas, ne veut pas galvauder ses sentiments. Les fadaises ne sont pas de mise quand on est comme lui tellement épris d'absolu. Il ne veut pas avoir d'attitude équivoque, de gestes déplacés, de comportements vulgaires. La vitre du compartiment lui renvoie l'image du visage de la jeune fille. Le bruit rythmé des roues du train qui foncent vers leur avenir bat à l'unisson des pulsations de son cœur. Il se fait intérieurement le serment de tout faire pour garder sa nouvelle amie, toujours. Frédéric est le premier à rompre le silence. C'est ma dernière année à Laon, tu sais, Marie-Michel. Dans 8 mois, je serai nommé instituteur sur un poste vacant du département. Tu veux vraiment être instituteur? Pour un fils de famille ouvrière, c'est plutôt bien, non? Tu ne peux pas faire mieux? À vrai dire, j'y ai un peu pensé. Le professeur de français de l'école normale me conseille de continuer mes études et de passer une licence de lettres. Le prof de gym me pousse vers le professorat d'éducation physique. J'hésite. Je vais peut-être tenter le concours d'entrée dans un CREPS. Mais cela veut dire 4 ans d'études au minimum avant l'armée. Ça va être long, tu sais. Oui, ça va être long. Mais moi aussi, il faut que je fasse des études. Alors, quel métier veux-tu faire? D'abord, passer mes 2 bacs, bien sûr. Ensuite, j'aimerais bien faire comme toi. Une onde de bonheur envahit le cœur de Frédéric. Dans ce propos banal en apparence, se dessine la perspective de toute une vie. Tu as l'air songeur. Tu penses que je n'en suis pas capable? Tu sais, je n'en ai pas l'air, mais je suis sportive. Je cours vite. Je suis première de la classe en gym. Ce serait formidable. Pour nous deux. L'inconscient de sa pensée vient de formuler intérieurement les mots qu'il n'a pas cherchés. Il se rend compte que les dernières 24 heures qu'il vient de vivre ont été les plus riches et les plus heureuses de sa vie, qu'il n'aspire plus qu'à les prolonger, les renouveler, les multiplier. Pourtant, l'inéluctable séparation approche. Le convoi vient de donner un ultime coup de frein qui l'immobilise en garde lent. Ensemble, lentement, main dans la main, ils montent les rampes qui mènent au plateau, marchent dans les rues sombres de la ville haute vers le quartier des écoles. Après l'église Saint-Martin, leurs routes doivent diverger. Frédéric n'aime pas les adieux qui traînent, qui rendent encore plus dure la séparation. Un baiser de revoir, un dernier regard qui va chercher dans les yeux de l'autre une promesse d'avenir, des doigts qui tardent un peu à se lâcher, puis arrive l'inéluctable solitude, l'absence, le vide. Sur le chemin de son école, Frédéric s'interroge à nouveau, s'étonne de la vitesse à laquelle il s'est entiché d'une gamine qu'il avait peut-être déjà vue, mais jamais vraiment remarquée auparavant. Elle a 16 ans à peine et lui 19. Ils n'ont pas l'âge de vivre ensemble, il le sait. Il a conscience que leur bonheur tout neuf devra se nourrir d'instants dérobés au travail, à la vie de famille, aux loisirs d'hier. Mais c'est la règle du jeu. Peut-il la refuser? Comment leur histoire va-t-elle évoluer? Il ne gagnera pas sa vie avant un an d'ici, et aussitôt après ce sera le service militaire, l'Algérie probablement. Plus de 2 ans dans le meilleur des cas. Doit-il continuer ses études, faire des projets à long terme? Quelle place peut-il accorder à Marie-Michel dans sa nouvelle vie encore pleine d'incertitudes? Cette histoire toute neuve, il a terriblement envie qu'elle se prolonge, mais arrivera-t-elle un jour à sa conclusion logique? Que se passera-t-il? Qu'adviendra-t-il d'eux dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu écris, Michel? C'est pour le patron Marie. Il veut que je note toutes ses réactions. Tu as noté quoi? Une nette amélioration. Moins de fièvre, moins de contractions musculaires, visage plus détendu. C'est vrai qu'il a l'air plus calme. Tu crois qu'il peut guérir? À ce stade de la maladie, on ne guérit plus. Tout ce qu'on peut espérer, c'est une sortie du coma avec une petite rémission.
Chapitre 5. Projet d'avenir. La décision de Frédéric est prise. Il a choisi le sport. Il va faire une demande d'autorisation de passer le concours d'entrée dans un CREPS. Il a 6 mois pour se préparer, s'inscrire dans un club, s'entraîner. Il sait ce qui l'attend. Son prof de gym l'a averti. Un premier concours très physique pour être admis. Beaucoup de travail ensuite pour réussir en 1 an. La première partie du professorat est entrée à l'École normale supérieure d'éducation physique, s'il est dans les meilleurs. Préparer ensuite en 3 ans les 2 diplômes de la seconde partie. Frédéric fréquente assidûment le petit stade à côté de son école sur lequel il s'entraîne comme un forcené. De temps en temps passe la promenade du lycée de jeunes filles. Le regard de Marie-Michel constitue pour lui le plus efficace des dopants. Il ne sent pas de limite à son courage, car, dans son portefeuille, une lettre de son ami ne le quitte jamais. Il en relit régulièrement une phrase qui l'enchante et le remplit d'énergie. S'y penser en tout lieu, tout le temps, la même personne, s'y aspirer à la revoir dès qu'on la quitte, n'être bien qu'avec elle, vouloir ne faire qu'un avec elle, c'est aimer quelqu'un. Alors oui, Frédéric, je t'aime. La fin de l'année scolaire se passe au mieux pour Frédéric. Pendant le temps de l'école, il échange avec elle un courrier par semaine, comprend ses états d'âme, lui communique les siens, s'étonne d'une maturité et d'une sensibilité qui n'a d'égal que son espièglerie. Il la rejoint régulièrement à la gare les jours de grande sortie. Ses courts voyages en sa compagnie, dans le train des étudiants, constituent la première récompense de sa patience. Il aime le contact du corps gracile de Marie-Michel contre son flanc et le reflet du visage de son ami à côté du sien dans la vitre de la fenêtre, pendant que le train file à toute allure dans la plaine Picarde.
Ils se retrouvent le dimanche après-midi pour une marche sur les sentiers de halage du canal, un tour à bicyclette par les petites routes de campagne, une séance de cinéma quand le temps est moins clément. Cette situation lui suffit. La passion grandissante qui l'habite s'accompagne du respect de la jeune fille. Des promenades main dans la main, des baisers d'amoureux, une étreinte chaste suffisent à nourrir sa passion. Il n'a cure des vantardises de ses copains de promotion, racontant avec complaisance leur bonne fortune, leurs premières expériences sexuelles. Certes, comme les autres, la sève le travaille, mais il n'imagine pas la découverte finale avec une autre que Marie-Michel. Et elle est bien trop jeune. Pourtant, un dimanche de mai, ils se promènent ensemble dans les bois du rond du roi de la basse forêt de Coucy-le-Château. Glane le muguet porte bonheur. Loin des parents de Marie-Michel qui les ont amenés, ils posent au sol leur cueillette, s'asseyent au pied d'un chêne dans l'herbe nouvelle qui écarte les feuilles mortes du dernier automne. L'air capiteux du printemps, le soleil qui joue dans les jeunes frondaisons, le fait d'être seul avec Marie-Michel, Frédéric sent une douce chaleur monter en lui. Il caresse doucement le visage de son ami, glisse ses mains sur les épaules et sur les flancs de la jeune fille, remonte jusqu'au sein menu, ose glisser une main fiévreuse sous le pull léger qu'il avait, cherche dans le dos une agrafe qu'il ne trouve pas. Marie-Michel éclate de rire, mais ne l'aide en rien, sinon par son tacite consentement. Alors il force le passage de ses doigts sous le tissu élastique, touche avec délice les petites pointes durcies, remonte le léger chandail, promène longuement ses lèvres avides sur la délicieuse jeune poitrine tendre et ferme. Elle a posé les mains sur la tête du garçon et le maintient délicatement contre son cœur. Mais en dépit de l'envie qui le submerge, il résiste. Il ne veut pas d'une commune initiation bâclée à la sauvette dans la crainte de voir surgir quelqu'un. Aujourd'hui, il n'ira pas plus loin dans l'aboutissement de sa passion. Il sait bien qu'un jour, inéluctablement, ils iront ensemble jusqu'au bout de leur désir, mais il ne veut forcer aucune étape. L'amour physique les rattrapera quand ils seront prêts, l'un et l'autre. Alors, vos observations, mademoiselle?
C'est incroyable, docteur. Il a l'air beaucoup mieux maintenant. La fièvre est retombée à 37,9.
Le pouls est à 80. La respiration est régulière et sa tension est stabilisée à 13. Vous pensez qu'on peut espérer une rémission?
C'est aller un peu vite en besogne, mademoiselle.
Vous constatez simplement les effets du fortal sur son organisme. Il n'y a qu'à continuer le traitement sans rien changer. Bien entendu, vous continuez à le suivre de très près.
Oui, docteur.
Chapitre 6. Nuages noirs. Conforté par l'avis de Marie-Michel, Frédéric se donne les moyens de sa nouvelle ambition. Il a un nouveau but. Il va tout faire pour y parvenir. Il parfait sa forme physique en disputant toutes les compétitions d'athlétisme de la région avec le club de sa ville. Son corps entraîné est euphorique et sa polyvalence lui permet de s'aligner dans de nombreuses épreuves des trois disciplines athlétiques. Mais en raison de la proximité du concours d'entrée dans un creps, il ne veut pas courir de risque. Il ne disputera sur le stade de la ville voisine que le lancement du poids et le triple saut pour les couleurs de son club. Il excelle dans ces deux épreuves. Il n'aura pas besoin de forcer son talent pour l'emporter et aura une semaine pour récupérer avant l'examen si important pour lui et pour l'image qu'il veut donner de lui à son ami. C'est à l'envolée du deuxième bond, lors du premier essai du concours de triple saut, que soudainement il s'écroule, la cuisse droite comme percée par une balle. Il comprend immédiatement qu'il vient de se faire la blessure tant redoutée des sportifs, la plus imprévisible et aussi la plus invalidante des blessures musculaires pour un athlète, le claquage. Recroquevillé dans le sable du sautoir, pressant sa cuisse à pleine main, Frédéric, grimaçant de douleur, voit s'envoler son rêve et son avenir. Morose, il assiste depuis la tribune à la fin de la réunion. Il a perdu les titres départementaux qu'il visait, ce qui n'est rien, mais probablement aussi l'avenir qu'il s'était promis, en grande partie pour plaire à son ami. Il regagne en clopinant l'autocar du retour, répond à peine aux questions pleines de commisération de ses collègues athlètes compatissants. Arrivé à la maison de ses parents, il a du mal à dissimuler sa douleur physique lors de l'ascension des quatre marches de pierre. « Mon Dieu, Frédéric, que t'est-il arrivé ?»« Bonsoir, maman. Oh, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Une simple élongation musculaire, je pense. Papa n'est pas là. Non, il est encore au jardin. Tu peux aller en haut dans ma chambre chercher le tube de Dolpic qui se trouve dans ma valise. Il faut que je me fasse un massage, que je me mette une bande. Tu ne veux pas qu'on aille chercher le docteur? Non, je pense que ça va aller. Le plus ennuyeux, c'est que dans une semaine, je passe le concours du Krebs. Si tu ne peux pas le passer, tu seras instituteur, voilà tout. Et c'est peut-être mieux comme ça. Ton sport ne peut te conduire qu'à l'accident. Tu sais que je n'ai jamais été pour. Mais maman, le sport n'est pas plus dangereux que le reste. On peut se blesser n'importe où, quoi que l'on fasse. Et puis tu sais, comme je suis normalien, si je réussis, je serai boursier. Mes études au Krebs seront gratuites. Vous n'aurez rien à payer. Peut-être, mais je ne vis plus quand tu es sur un stade. Tu n'as pas de limite, tu ne sais jamais t'arrêter. La preuve. Tu verras, ça ira mieux demain. Je vais aller m'allonger. Sans manger? Je n'ai pas faim du tout ce soir. Je me rattraperai demain. Docteur, Marie, l'aide-soignante qui lui fait sa toilette, m'a fait remarquer. Regardez ses jambes. La droite en particulier. Montrez-moi ça. Voyons. Oh, en effet, peau violacée, avec œdème généralisé à tout le membre. De quoi s'agit-il? Dans un cas comme celui-ci, mademoiselle, on pense tout de suite à une phlébite. Vous allez lui faire immédiatement un bandage compressif sur tout le membre et une prise de sang pour analyse. Notez, je vous prie. Vitesse de sédimentation, numération globulaire, taux de prothrombine, nombre de plaquettes, je veux les résultats le plus tôt possible dans la journée. Bien, docteur. Frédéric se soigne activement, masse sa cuisse matin et soir en drainant la circulation comme le lui a appris son prof de gym. Il boit beaucoup d'eau du robinet pour aider son sang à éliminer toxines et déchets. La plaque bleuâtre qui est apparue à l'arrière de sa cuisse au lendemain de la blessure a rapidement viré au jaune et la douleur, quoique toujours présente, s'est beaucoup calmée. Le vendredi qui suit l'accident, après une sérieuse application de pommade chauffante, il peut recommencer à trottiner et à rouler en vélo sur le plat. Heureusement qu'il est droitier. Si le claquage avait concerné sa jambe d'appel, il aurait dû renoncer définitivement à sa nouvelle ambition professionnelle. Le concours a lieu à Reims et les épreuves durent 2 jours. La dissertation, qui permet aux examinateurs d'évaluer leurs capacités intellectuelles, ne pose aucun problème à Frédéric. Le sujet porte sur les bienfaits et les inconvénients du sport, et la façon dont il le relie à la notion de bonheur. Fort de sa récente et douloureuse expérience, il rend un devoir remarquable de concision, d'adéquation, de vérité. Il en a conscience. Un peu d'espoir lui revient. L'ordre des épreuves physiques dans son groupe de candidats commence de façon plutôt favorable pour lui. Lancement du poids, son point fort en dépit d'une corpulence ordinaire. Saut en hauteur, qui sollicite essentiellement la jambe d'appel, sa jambe valide, et barre parallèle, qui font appel à la puissance du haut du corps. Frédéric est satisfait de ses prestations, mais le plus dur reste à venir. Lors du 100 mètres chronométré, il a beau tendre sa volonté, forcer sur ses jambes, rechercher longueur des foulées, la vélocité, le chronomètre est implacable. 12 secondes et 5 dixièmes. Il est bien loin de son record. De plus, la douleur est revenue dans sa jambe blessée et il reste encore le 1500 mètres à disputer. En dépit de sa fierté, d'une volonté exacerbée, de l'image de son ami qui ne le quitte pas et à qui il dédie sa souffrance, il finit à l'agonie, s'écroule sur la pelouse du stade après la ligne d'arrivée. 5 minutes et 22 secondes. La honte, un des plus mauvais temps de tous les concurrents. Certes, il n'a jamais été un champion dans les épreuves de résistance, mais là, dans un concours où c'est le dernier demi-point qui fait la différence, il vient d'en perdre 7 ou 8. Frédéric est effondré, au bord des larmes qu'il refoule, car un garçon ne chiale pas. Il est épuisé, en nage, sa jambe le lance énormément, et il doit encore parcourir à pied les 2 kilomètres qui le séparent de la gare. Il a des suées, des gestes brusques, des périodes de pâleur et de rubéfaction faciale, en même temps qu'une forte accélération respiratoire. Sa température est remontée à 40. Il semble vraiment fatigué, docteur. Vous avez le résultat des analyses? Il vient de nous parvenir du labo. Aïe, la numération leucocytaire est importante. Il fallait s'y attendre. Mais aussi son taux de plaquettes est anormalement élevé. C'est bien ce que je craignais. Phlébite. Non primitive, évidemment. C'est une des évolutions possibles, sinon prévisibles, de cette vacherie de maladie. Bon, on le place sous héparine si on veut éviter l'embolie définitive. Vous allez lui installer tout de suite une seconde perfusion avec doseur automatique. Je m'en occupe immédiatement. Marie-Michel est partie en vacances sur une plage de la Manche. Pendant ce temps, sans l'aide du médecin qu'il déteste aller consulter, Frédéric tente de récupérer de la récidive de son accident musculaire. Il évite soigneusement tout effort physique violent. Le second hématome, apparu après les épreuves physiques du concours d'entrée au CREPS, commence à se résorber sous l'effet des pommades qu'il s'auto-prescrit. Il peut à nouveau monter sur sa bicyclette et, puisque son ami est loin de lui, il profite des vacances pour se livrer à un de ses passe-temps favoris, la pêche au brochet. Il affectionne cette activité qui, si elle demande une certaine attention, laisse cependant l'esprit libre de vagabonder. Les brins de ses 2 cannes à pêche soigneusement liées au cadre de son vélo, musette de forte toile militaire en bandoulière, il se rend au bord de la rivière, bras de l'Oise qu'il affectionne pour le calme et la sérénité qu'elle lui procure, même si cet endroit n'est pas réputé comme le plus poissonneux de la région. L'eau, contenue en aval par la barrière d'un déversoir, serpente paresseusement dans un paysage de prairies. Réformée de la navigation moderne, une vieille péniche en bois agonise entre les massifs de nénuphars jaunes de la voie d'eau inutilisée, la barrant presque complètement. Frédéric monte la première de ses cannes à pêche, jette quelques pincées d'amorce pour rassembler le fretin gourmand et affamé, pique délicatement un verre de vase au bout d'un minuscule hameçon et commence sa quête d'un pas vivant. Il varie les profondeurs de pêche en agissant sur le niveau du flotteur, anime l'appât par des retenues et des relâchés de la ligne. Cette technique éprouvée, associée aux vertus de son amorce maison, porte rapidement ses fruits. Une première ablette étourdie se laisse séduire par l'appât, suivie bientôt dans le vivier de la bourriche par quelques goujons et rotangles tout aussi téméraires. Laissant la petite ligne pêcher seule, Frédéric s'éloigne du bord de l'eau pour assembler avec un soin méticuleux les brins d'une seconde canne en solide bambou noir. Il a depuis longtemps élaboré une technique tout à fait personnelle pour capturer l'ogre des rivières. Beaucoup moins sot et plus méfiant qu'on veut bien le laisser entendre dans les milieux halieutiques. Pas d'énormes flotteurs multicolores, ni de fils tressés, ni d'ampilles d'acier terminées par un hameçon double zéro dans son matériel. Il a taillé un flotteur dans le liège d'un bouchon de bouteille. Monté sur une ligne en fil de nylon invisible, équilibré à ras de l'eau par une olive profilée en plomb terni, celui-ci offre une résistance minimale aux efforts de navigation du pauvre vif et peut passer, aux yeux d'un brochet tatillon, pour un petit bout de bois dérivant. Il n'attendra pas très longtemps l'attaque du carnassier, attiré par la nage irrégulière de l'appât vivant. Le fil se tend brusquement pendant que le bouchon plonge dans les profondeurs glauques de la rivière. Frédéric rend la main quelques secondes, puis revient au contact en récupérant lentement le fil de la main gauche et ferre avec énergie. La résistance saccadée qu'il perçoit au bout de la ligne lui apprend que le poisson est accroché. Ne pas le laisser s'enfiler sous les nénuphars, bien le maintenir vers le milieu de la rivière, le ramener rapidement vers la surface. Agir vite, car les dents acérées du carnivore peuvent rapidement scier le nylon de la ligne. Un effort prolongé vers le haut de la forte canne de bambou noir et le poisson s'envole pour retomber sur la berge.
Tu ne places pas le doseur d'héparine à son bras gauche?
Non, j'installe la perfusion côté droit à cause des branchements électriques. Il a des tuyaux partout, le pauvre.
C'est pour son bien. Et puis, dans son état d'inconscience.
Donne-moi la seringue.
Merci. Le trocar maintenant?
Bon sang, ça ne va pas être facile. C'est tout juste si on voit la veine.
Bon, allons-y.
Frédéric pose au sol la canne tendue comme un arc par le poids de l'animal. Au moins 3 livres, estime-t-il. Il se précipite vers la bête que ses sursauts désespérés rapprochent de la rive. Au moment où, d'une main habituée, il va plaquer à terre le dos marbré du poisson, d'une ultime secousse, celui-ci réussit à se libérer de l'hameçon qui, fouetté par la tension de la ligne, vient se planter violemment dans la chair de l'avant-bras droit du garçon.
Chapitre 7 Preuve d'amour.
Frédéric est maintenant remis de ses blessures. Il attend les résultats du concours d'entrée dans un creps avec une impatience grandissante. Il trompe le temps comme il peut, tente de garder la forme par de longues randonnées en vélo, en nageant dans le canal. Il opère des ravages dans les rangs des brochets de l'Oise. Son ami lui manque plus qu'il ne veut se l'avouer. Au retour de Marie-Michel, une semaine avant la fin du mois d'août, il sent son cœur se dilater en une immense joie intérieure. Elle est revenue, toujours aussi mignonne, fraîche, spontanée, toujours aussi amoureuse. Elle aussi est impatiente. Tu le racontes, ton résultat?
Ça ne devrait plus tarder maintenant. On est le 23. En attendant, j'ai reçu mon affectation d'instituteur. Je suis nommé à Saint-Gobain.
Donc, si tu n'es pas admis au CREPS, dans 3 semaines, tu seras instituteur?
Oui, et dans 3 mois, je serai soldat.
Tu reprends quand, à l'an?
Je ne retournerai pas à l'an cette année. Il paraît que je suis assez grande pour cohabiter avec mon beau-père maintenant. Je suis inscrite au lycée de Chauny, en section philo.
Ah, ça ne te plaît pas?
Oh, si, il n'y a pas de raison. Mais tu vois, l'an, pour moi, c'est la source de notre merveilleuse histoire. Alors, j'aurai sûrement une petite nostalgie.
Pour la première fois, Frédéric ne dit pas toute la vérité à son ami. Il sait bien qu'au contraire du lycée de jeunes filles de l'an, celui de Chauny est mixte, et Marie-Michel est si mignonne que tous les garçons vont être fous d'elle, alors que lui sera loin.
A-t-il repris conscience?
Non, docteur. Mais c'est étrange. Il n'est plus simplement dans un coma réactif puisqu'il bouge de temps en temps, mais il n'ouvre pas les yeux. Il ne parle pas et n'a pas l'air d'entendre. Pourtant, j'ai l'impression d'un léger mieux dans son état. Il ne tousse plus du tout et sa température baisse un peu.
Objective, soyez uniquement objective, mademoiselle. Oubliez les impressions.
Sa jambe?
On vient de refaire le bandage compressif. L'œdème s'est un peu résorbé.
Réagit-il à la douleur?
Il semble bien que oui. En dépit du fortal, il a légèrement tressailli lorsque j'ai installé la perfusion d'héparine. À l'observer, on dirait même qu'il exprime des émotions. Mais c'est si fugace que c'est peut-être mon imagination.
Encore une fois, contentez-vous d'énoncer des faits.
Les mouvements que vous avez observés constituent cependant un élément positif et encourageant. On diminue la codéine, on arrête l'oxygène, mais on continue héparine et fortal, avec des dosages identiques.
Ah, je veux de nouveaux résultats d'analyse sanguine dès que possible.
Bien, docteur.
La lettre tant attendue arrive le 28 août.
Il y a du courrier, Frédéric?
Oui, maman, une lettre pour moi.
Sur l'enveloppe de mauvais papier marron, il peut lire « République française, Académie de Lille, jeunesse et sport ». Son cœur accélère, mais il se contrôle, s'efforce au calme. Il prend le temps de sortir un couteau pointu du tiroir du buffet, découpe l'enveloppe sans laisser deviner sa fébrilité. Il se prépare mentalement au pire. Respiration bloquée, il sort lentement les feuillets de papier. Ses yeux accrochent immédiatement une ligne soulignée de rouge. Vous êtes admis dans un CREPS. Il ferme les yeux, expire lentement l'air de ses poumons. Pense intensément à son amie. Comme elle va être contente, fière de lui. Il a toujours eu besoin qu'on soit fier de lui.
Tu as reçu de bonnes nouvelles? S'enquiert sa mère qui s'active au fourneau.
Oui, excellente. Je suis admis dans un CREPS.
Ah.
Attends, je relis. Oh là là, 219e sur 262.
C'est étonnant.
Vous étiez tant que ça?
À Reims, non. Mais là, tu vois, c'est le résultat au niveau national.
En réalité, on était plus de 600 à se présenter dans toute la France.
Donc, tu vas aller dans un CREPS?
Oui. Ils veulent que je fasse mes vœux immédiatement. Ils demandent une réponse par retour du courrier.
Tu choisis le plus près d'ici, bien sûr.
Évidemment. Je demande Reims en priorité.
Il faut aussi que je prévienne l'école normale à cause du poste de Saint-Gobain que je ne prendrai pas à la rentrée.
Enfin,
si tu penses vraiment que tout ça c'est meilleur pour toi. »
Frédéric a annoncé la bonne nouvelle à Marie-Michel. Elle s'est jetée contre lui avec passion, comme pour le remercier. Il oublie ses petites inquiétudes au sujet de leur avenir proche, décide une promenade à bicyclette. Il l'emmène vers l'endroit qu'il affectionne, au bord de la rivierette, ce bras de l'Oise, né de l'assèchement d'anciens marécages transformés en prairies. Ils se sont allongés sur la berge herbeuse. L'eau d'émeraude sombre caresse les feuilles de nénuphar et de sagittaire qui bordent la rive. Les hirondelles chasseresses rasent la surface de la rivière, crampant parfois le bout de leurs ailes. La brise favorable a chassé les relents de chimie des usines proches, et l'air est chargé des senteurs aphrodisiaques de l'armoise et de l'herbe froissée. Ils sont loin de tout, seuls au monde, un buisson les masque, personne ne peut les voir. Frédéric caresse longuement son ami qui vibre sous la pression de ses doigts. Il relève la jupe légère, effleure les cuisses dorées, laque ses lèvres avides sur le ventre de la fille à travers le fin vêtement résiduel, recherche un coin de peau au-dessus de l'élastique. Marie-Michel, la respiration forte et les yeux fermés, main sur le dos de son ami, accepte l'amour du garçon. Quand il tente de baisser le léger vêtement, elle l'aide de son mieux en soulevant son bassin juvénile. Frédéric, le sang battant fortement à ses tempes, niche sa tête dans la douceur veloutée de Marie-Michel. Il a du mal à se dévêtir, tant est forte l'envie qui le tenaille. Au moment de la communion, alors qu'il sent l'intimité de son ami contre lui, il hésite, s'arrête, recule. Il s'assied près de la jeune fille, pose à nouveau ses lèvres sur le ventre offert, se rajuste aussi prestement que lui permet des circonstances. Il remonte délicatement le sous-vêtement de la jeune fille avec des gestes tendres, ponctués de caresses. Pendant un long moment, il se regarde sans rien dire. Il sait qu'elle a compris, sait qu'elle n'est pas déçue, n'éprouve pas le besoin de parler, d'expliquer. Après un long silence, c'est elle qui murmure. Frédéric, je pense qu'un jour, entre nous deux, fatalement ça arrivera. C'est pour cela que j'ai accepté maintenant. Mais je suis heureuse que cela n'ait pas eu encore lieu. Je crois que je t'aime encore plus pour ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, Frédéric. Chapitre 8. L'eau de la rivière. Les vacances se terminent, l'air vibre de la chaleur de septembre. En attendant la rentrée toute proche maintenant, Marie-Michel et Frédéric sillonnent à bicyclette les petites routes et les chemins campagnards qui bien souvent les ramènent à la rivière. Pour eux, maintenant, les bords de l'Oise ont une histoire. L'eau verte, calme et profonde, méandre paresseusement à travers les pâturages d'herbes rases, caresse de sa surface tranquille les basses branches des aulnes riverains. Frédéric, le front et les bras luisants de transpiration, descend de bicyclette, imité par son ami. « Tu n'as pas trop chaud ?»«
J'ai chaud. »«
Tu n'as pas envie de te baigner ?»«
N'est-ce pas un peu dangereux ?»«
Non, il y a du fond à cause de la retenue, mais pas de tourbillon. »«
Tu y vas ?»
Frédéric enlève short et chemisette, quitte ses chaussures de tennis sans prendre la peine de les délacer et plonge sans hésiter. Corps profilé, il se laisse glisser dans les sombres profondeurs. Une traînée de bulles dénonce son passage. Juste avant d'émerger, il se tord sur lui-même, exécute un preste demi-tour
et se retrouve face à son amie.
Elle est bonne ?
Plus fraîche que le canal, mais délicieuse quand même. Tu viens ?
La jeune fille ôte sa robe légère, apparaît simplement vêtue d'un maillot de bain deux pièces en vichy mauve et blanc.
Vas-y, plonge, rejoins-moi.
Non, je ne sais pas encore bien faire.
Elle se glisse dans l'eau, nage vers le milieu de la rivière. Elle est souple, déliée, tous ses mouvements sont gracieux. L'eau glisse sur ses épaules, nacrant sa peau dorée.
Frédéric lui laisse prendre de l'avance, la rattrape dans une gerbe d'éclaboussures, l'oblige à s'arrêter, plaque un baiser sur ses lèvres mouillées.
Il lui murmure à l'oreille avec espoir.
« Si tu veux, tu peux enlever le haut.
Il n'y a personne ici pour admirer tes petits complexes.
Sauf moi, » ajoute-t-il à voix basse.
Elle ne répond pas, mais fait une grande inspiration et disparaît dans les profondeurs. Après quelques secondes, elle ressort avec son sourire espiègle, brasse vers la rive, lance un bout de tissu mouillé sur l'herbe de la berge.
Quand elle repart, en dos crôlé, l'émouvante poitrine menue s'anime dans le léger roulis de la nage.
Frédéric sort de l'eau pour mieux admirer le gracieux spectacle.
« Tu ne nages plus ?»«
Non, j'ai un peu froid. Mais continue. Je guette pour te prévenir s'il vient quelqu'un. »«
Hypocrite !»«
Je ne suis pas hypocrite. J'avoue que j'aime te voir. » Mais je ne veux pas partager.
Marie-Michel, insensible à la température de l'eau, évolue longuement sous les yeux intéressés du garçon. Quand enfin, fatiguée de nager, emperlée de gouttes de rivière, elle sort et court vers son ami. Il a l'émotion de voir vivre la jeune poitrine. Elle se réfugie dans les bras ouverts et presse ses petits seins mouillés contre le torse musclé du garçon. Frédéric tressaille de bonheur.
« A-t-il encore de la température, mademoiselle ?»«
Beaucoup moins, docteur. 38 à peu près. »«
Il ne bouge toujours pas ?»«
Je parle de mouvements coordonnés et non de contractions réflexes, bien sûr. »«
Pas vraiment. »
Mais c'est étrange, parfois il est humide de transpiration, et à d'autres moments, on dirait qu'il frissonne.
Chapitre 9. Premier accroc. Pendant l'année scolaire qui suit, dans l'ancienne usine désaffectée et réaménagée qui constitue l'infrastructure du Krebs de Reims, Frédéric travaille 12 heures par jour. Les programmes d'anatomie, de physiologie et de psychologie sont énormes. Les fatigantes activités sportives s'enchaînent sans temps mort tout au long de la journée. Et, après l'étude du soir, sous le drap de son lit d'internat, il domine son épuisement et révise cours et règlements sportifs à la lumière de sa lampe de poche. Il rentre chez lui une fois par mois, retrouve ses parents avec plaisir et son ami avec passion. Marie-Michel lui parle de ses nouveaux camarades de classe, presque tous des garçons, dont certains sont très drôles et super sympas. Ils ont des idées géniales, organisent des randonnées, des surprises parties, des cercles de discussion. Elle ne tarit pas d'éloges sur un gars de sa classe, intelligent, spirituel, pas faillot du tout, collectionneur de boîtes d'allumettes et toujours plein d'idées originales. Du poison entre dans l'âme de Frédéric. Il connaît l'individu qui fut dans la même classe que lui il y a 6 ans déjà. Il sait que ce garçon est tout à fait son contraire. Désinvolte, chahuteur, insouciant comme beaucoup de jeunes qui, issus de familles aisées, peuvent se le permettre. Frédéric ne supporte pas l'admiration que semble lui porter Marie-Michel. Il commet sa première erreur. Dis donc, ton ami, le génial collectionneur, il n'est pas si fort que ça. On était dans la même troisième. Il a donc redoublé deux fois, ce petit prodige. Pourquoi tu dis ça, Frédéric? C'est méchant, et ça n'a vraiment rien à voir. On peut avoir redoublé et être intelligent. C'est toi qui es bête. Il a eu une idée épatante de collection, et j'ai commencé la même. Parce que l'idée ne vient pas de toi, tu penses tout de suite qu'elle est mauvaise. Je trouve ta réaction vraiment décevante. Venez vite voir, docteur. Il bouge, il s'agite cette fois. Regardez son visage, il a l'air de souffrir. En effet, vous allez augmenter la dose de sédatif dans la perfusion. Il ne faudrait pas qu'il se débranche accidentellement. Si néanmoins vous constatez une nouvelle crise, n'hésitez pas à pratiquer l'intraveineuse. L'effet sera plus rapide. L'année scolaire est finie. Marie-Michel, un peu moins brillamment que l'année précédente, a décroché la deuxième partie de son bac. Content de ce résultat, Frédéric, admissible à la première partie du professorat d'éducation physique, après les épreuves écrites d'anatomie et de physiologie, est allé à Paris pour l'oral et le physique avec une formidable envie de gagner. Les épreuves de cet examen concours, ô combien important pour lui, dureront 5 jours. Quand, compétition terminée, épuisé, il descend du train du soir, elle est là qui l'attend, mordillant nerveusement le coin d'un ongle. Elle se précipite à sa rencontre. « Alors ? Alors, viens, marchons. Vite, dis-moi. Eh bien, j'ai réussi la première partie du professorat. Ah, c'est bien, je suis contente pour toi. Et je suis admis à l'ENSEP. Oui, 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 oui. Oh, que je suis heureuse, c'est formidable. D'autant plus que dès la rentrée, je vais être payée comme élève professeur. C'est vraiment super. C'était dur? Fatigant, je suis vanné. Je pourrais dormir 24 heures d'affilée. On se voit demain après-midi? Mais je n'attends que cela, Frédéric. J'aurai quelque chose de bien à t'apprendre, moi aussi. Dis-moi tout de suite. Non, non, je t'en prie. Bon, je ne vais pas te faire languir. Moi, je me suis décidé. Je vais faire comme toi, le professorat de sport. À partir de cette année, il n'y a plus de concours d'entrée. On peut être admis sur dossier directement dans une classe préparatoire. J'ai posé ma candidature. Et comme j'ai les meilleures notes de gym de la classe, je suis certaine que ça va marcher. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente. Tu sais que c'est dur la première année. Tu te sens assez forte? Puisque tu l'as fait, je le ferai. Elle se situera où, cette classe préparatoire? Ce n'est pas encore officiel, mais pour l'académie, on parle du lycée de Tourcoing. Tourcoing. Oui, ça peut aller, ce n'est pas encore trop loin. On en reparle demain après-midi? Je t'emmène à la pêche au brochet, dans la rivierette. Je veux bien, à demain, repose-toi bien. Chapitre 10. Un moment d'éternité. Frédéric a maintenant intégré l'ENSEP. Il supporte avec patience et désintérêt un nouveau bizutage. Rien ne peut l'atteindre. Il pense sans cesse à son ami qui vit maintenant ce qu'il a enduré l'année précédente. Ils échangent 2 lettres par semaine. La dernière vient de lui apprendre le probable déménagement de la classe préparatoire de Tourcoing pour le Krebs d'Aix-en-Provence à 700 km de Paris. Ils ne pourront plus se voir. Frédéric est catastrophé. Sous prétexte de travail, ils avertissent leur famille qu'ils ne rentreront pas aux vacances de Toussaint et qu'on vienne de se retrouver à Lille. Mais Marie-Michel n'a pas 17 ans, et même si elle peut passer pour un peu plus âgée, jamais on ne voudra la croire majeure. Frédéric se renseigne activement. Il finit par trouver un camarade de promotion lillois qui lui indique le bon système. « Tu vas à l'hôtel de R. Sur la fiche de police, tu indiques que tu es étudiant en stage et tu préviens le patron que, étant donné que tu as beaucoup de réunions le soir, tu rentreras très tard. Pour ne pas avoir à veiller, il te confiera un passe-partout pour la deuxième entrée. Comme ça, tu pourras amener ta copine sans qu'on la remarque. » Frédéric adopte l'idée et écrit sur le champ à son ami, lui fixe rendez-vous à la gare de Lille. À son grand soulagement, tout se passe comme prévu. Ils ont tiré les rideaux, ils sont seuls dans la chambre anonyme, face à face, intimidés. Il prend la jeune fille dans ses bras, la soulève, la pose délicatement sur le lit, s'allonge près d'elle. Pour la première fois, ils sont ensemble, sans témoin, sans l'inquiétude de voir arriver quelqu'un. Ils sont dans une bulle. Le monde extérieur n'existe plus, ne les concerne plus. Ils sont ensemble pour 3 jours. Ils ont tout le temps. Ils prennent tout leur temps pour se déshabiller mutuellement. Elle est nue sur la courte pointe à motifs fleuris. De l'appréhension se devine dans les yeux de Marie-Michel et dans son sourire un peu crispé. Un reste de bronzage dessine encore la forme de son maillot de bain et sa toison brune, incroyablement fournie, contraste avec la pâleur de la peau de son ventre. Frédéric tente de calmer son volcan intérieur. Il caresse longuement la belle adolescente. C'est elle qui se glisse sous lui. Elle encore qui saisit délicatement sa virilité pour le mettre en place. Il n'ose pas forcer, ne veut pas lui faire du mal. Arrête sa pesée dès qu'un début de souffrance se lit sur le visage de la jeune fille. À cet instant, Frédéric ne se soucie pas de son propre plaisir. Il ne pense qu'à son ami et à la douleur qu'il va inéluctablement déclencher. Quand la mise en place s'achève, Marie-Michel pousse un petit cri qu'elle réprime aussitôt en se mordant la lèvre. Frédéric, doucement, lentement, va au bout d'un intense plaisir qu'elle ne partage pas. Dans le plus profond du cœur du garçon se mêle la divine joie de posséder enfin celle qu'il considère comme la femme de sa vie, la gratitude pour le don inestimable qu'elle vient de lui faire, et la navrance de n'avoir pas pu déclencher en elle le même plaisir. Il s'inquiète. Tu n'as pas été heureuse, n'est-ce pas? Tu sais, je pense que la première fois, c'est normal. C'était bien pour toi? J'ai plus de 20 ans, tu vois. Mais c'est la première fois que je fais l'amour à une fille. Je voulais que ce soit avec la fille que j'aime. 20 ans. Il paraît que c'est tard pour un garçon. Tu as dû me trouver malhabile, mais tu vois, j'ai voulu t'attendre, découvrir la même chose que toi en même temps. J'ai bien fait. Tu vas me trouver rétro, pas à la page, mais je tiens beaucoup à ma propre estime. Oui, j'ai été heureux, profondément, absolument heureux, mais autant dans mon cœur que dans mon corps. Aujourd'hui, tu es devenue ma femme et je ne l'oublierai jamais. Marie, l'aide-soignante, quitte rapidement la chambre 613, court dans le couloir jusqu'à la salle de permanence des infirmières, saisit Michel, la responsable, par la main, l'entraîne à sa suite vers la chambre 613. Il est arrivé quelque chose? Tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. « Regarde, qu'est-ce que tu veux me montrer? Tout a l'air normal. »« Regarde mieux. » Elle se penche à l'oreille de l'infirmière et lui dit à voix basse, « Regarde le drap. Il est dans le cirage, mais il bande. » Chapitre 11. trop loin des yeux. Faute d'installations vraiment adaptées, faute aussi d'enseignants spécialisés, la classe préparatoire de Marie-Michel a déménagé, transféré au Creps d'Aix-en-Provence. Frédéric, satisfait pour son ami qui pourra travailler dans de meilleures conditions, est catastrophé pour lui-même. L'avenir à court terme lui semble bien sombre. Dans chacune de ses lettres, il exhorte Marie-Michel à travailler, car il sait bien que la réussite et leur bonheur à tous les deux est à ce prix. Si elle échouait au concours d'entrée dans la même grande école d'éducation physique que lui, et qu'elle soit obligée de continuer ses études à Aix, cela signifierait pour eux 3 années supplémentaires d'éloignement. L'éternité. Lorsque, dans une lettre joyeuse, elle lui annonce qu'elle va participer au bal des étudiants d'Aix-en-Provence, il se prend à imaginer celle qu'il aime plus que tout au monde, toute fraîche, avec sa jupe rouge et son chemisier blanc, dansant toute la nuit avec un garçon plus beau que lui, meilleur danseur, elle qui aime tant cela, quelqu'un qui sait faire les compliments qu'aiment les filles, quelqu'un qui va essayer de l'embrasser, de la caresser, ou plus peut-être. C'est la pire des tortures que d'imaginer la fille qu'on aime dans les bras d'un autre. Il entame alors le processus de sa seconde erreur. Il oublie la fatigue physique et la terrible pression qui pèse quotidiennement sur les étudiants préparant ce concours. Il ne pense pas que, comme lui l'an dernier, elle a besoin d'évacuer, de couper, de trouver absolument des dérivatifs. Il oublie que danser est une de ses passions. Il oublie qu'elle n'a que 17 ans et qu'elle a besoin d'élargir son cercle vital. Dans la réponse pressante qu'il lui envoie immédiatement, il lui demande de ne pas aller à ce bal. Trouve des arguments de sérieux, de travail, de concours à réussir absolument, de nécessité d'impasse zéro, de volonté et de force de caractère. Lorsqu'enfin il se retrouve aux vacances de Pâques, il s'enfonce dans son erreur. Par ses questions pressantes et malgré la réticence qu'elle met à répondre, bribe à bribe, il lui arrache la vérité. Une vérité qui lui fait mal. Oui, elle est quand même allée à ce bal. Oui, elle a beaucoup dansé. Oui, toute la nuit. Oui, souvent avec le même garçon. Oui, il dansait bien, mais elle le considère simplement comme un copain. Frédéric est malheureux. Il sait qu'il doit arrêter immédiatement son inquisition ridicule, dompter sa jalousie maladive, la prendre dans ses bras, la faire rire, la reconquérir. Ne lui a-t-elle pas donné la plus merveilleuse preuve d'amour ? Mais il s'enferre et continue son enquête imbécile qui lui distille de l'acide dans le cœur. Oui, il était beau. Oui, il a cherché à l'embrasser. Mais cette jalousie est ridicule et elle estime mériter un minimum de confiance de sa part. Ulcérée, Marie-Michel l'a planté là. Frédéric ne posera pas les 2 ultimes questions qui le rongent. A-t-il réussi à l'embrasser ? A-t-il tenté de la caresser ou plus encore ? Entre eux, la brouille durera plusieurs jours. Il a en lui une envie de meurtre. Il sait trop bien quelle est la raison qui pousse un garçon de 20 ans à rechercher la compagnie d'une fille. Il a trop en mémoire les discussions adolescentes de ses copains d'école normale, se vantant de leur rapide bonne fortune. Il est depuis longtemps persuadé que l'amitié simple et sans arrière-pensée ne peut pas exister entre 2 jeunes de leur âge et de sexes différents. Docteur, le malade de la chambre 613 m'inquiète. Il présente en plus de nombreuses séquences d'arythmie cardiaque. Que faut-il faire ?
Nous arrivons à un stade où la médecine ne peut plus grand-chose, mademoiselle. Sinon, peut-être l'accompagner, Pourtant, il y a une heure, Marie, mon aide-soignante, m'a fait remarquer qu'il avait une érection. C'est plutôt bon signe, non ?
Phénomène purement réflexe, mademoiselle.
Ou dû peut-être à une compression du canal rachidien cervical. Et dans ce cas...
Chapitre 12. Vent défavorable. Plus de 2 ans qu'ils sont ensemble. Frédéric est heureux. Ils viennent de traverser la France en scooter, de Chauny à Saint-Jean-de-Luz. C'est Marie-Michel qui a suggéré leur inscription à un stage de voile. Et Frédéric a accepté, avec empressement. Ils seront ainsi une semaine supplémentaire l'un près de l'autre, et c'est tout ce qu'ils demandent. Assis, face au soleil, sur la petite herbe salée qui tapisse les interstices des rochers, Frédéric a mis le bras sur les épaules de son ami qui lui tient la taille. La mer amicale leur lance des éclats de lumière sur le corps et le visage. À leurs pieds, une vague, toujours recommencée, glisse entre 2 cailloux émergents. L'eau monte et descend, s'insinue, caresse les pierres avec un bruit mouillé. Regarde Frédéric entre ces 2 rochers. La vague ?
Oui. Peux-tu me dire à quoi elle te fait penser ?
Frédéric se recueille un instant, se pénètre de l'ambiance.
C'est très troublant, tu vois.
Je pense à quelque chose de léger et de profond, de tendre et de fort, de pur et trouble à la fois. Je pense à... Il se penche et murmure à l'oreille de la jeune fille. Je pense à l'amour physique. Le visage du garçon s'assombrit. Il ajoute, comme pour lui-même, « J'aimerais tellement qu'on s'entende bien sur ce plan-là aussi. »«
Ça viendra tout seul, Frédéric, ne te tracasse pas. Je suis bien avec toi, je suis heureuse, et je voudrais que cet instant dure toujours. »«
Il durera aussi longtemps que tu voudras, Marie-Michel. » Le fort de Sokoa, qui abrite le stage de dériveur, domine fièrement l'ovale de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Les dortoirs des stagiaires sont situés dans les pièces circulaires du donjon de Vauban. Celui des garçons est au premier étage, les filles logent au-dessus. Stage de voile oblige, tous dormiront dans des hamacs de marine fixés au pilier central et sur le mur des pièces circulaires. Frédéric ne ferme pas beaucoup l'œil pendant la première nuit. Le hamac balance au moindre mouvement, et dormir sur le dos est inhabituel pour lui. Il occupe son esprit en pensant à son amie, tente de communiquer avec elle en pensée, cherche à lui transmettre les vibrations qu'il ressent quand il évoque son image. Le stage, cependant, est intéressant. Après une initiation de 2 jours, à bord des baleinières du centre de voile, on leur affecte des 420, nouveaux dériveurs école qui remplacent avec bonheur les anciens vauriens. Frédéric fait équipe avec son ami. Il se relaie régulièrement à la barre et au foc. Bons élèves, ils dominent rapidement les rudiments de la manœuvre et sont vite capables de sillonner en tous sens les eaux fraîches de la rade. Le 4e jour, une régate entre les stagiaires est organisée. La brise est faible, les risées rares et le soleil très généreux. La première manche de la course se prolonge bien au-delà de midi dans la chaleur accablante de juillet. En dépit d'un mauvais départ, une honorable 3e place récompense leur application. Cet après-midi, ils vont montrer ce dont ils sont capables. Altéré, déshydraté, Frédéric boit beaucoup d'eau lors du repas écourté. Hélas, le vent a encore faibli. Son souffle est devenu imperceptible. Le ciel est blanc de chaleur.
Le petit dériveur oscille au gré de la houle résiduelle. Le petit bruit mouillé de l'eau qui clapote sous la coque du bateau commence à agir sur le subconscient de Frédéric. Il commence à se tortiller sur son bouchain, croise les jambes pour contenir son envie d'uriner, force sa volonté dans un énorme effort de contention. Bien sûr, le dériveur avançant lentement, il pourrait plonger et se soulager dans la mer complice, mais le chef de stage a interdit la baignade en cours de régate, et il est là, sur la jetée, à lorgner avec ses jumelles. Impossible non plus de se dresser et de se soulager comme ça. Ils sont dans le groupe de tête, mais quelques autres 420 sont là, autour d'eux, dans un faible périmètre. Et puis, il ne veut paraître ni vulgaire, ni grossier aux yeux de Marie-Michel. L'envie qui le presse est si forte qu'elle lui donne presque la nausée. À bout de ressources, il avoue son petit drame intérieur à son ami, lui donne la barre, saisit les copes et va s'agenouiller à l'avant de l'embarcation. Marie-Michel a le tact et la gentillesse de ne pas lui faire de remarques. Au bord de l'explosion, il n'aurait pas tenu une minute de plus. Une intense sensation de bien-être physique et moral accompagne son soulagement. Cette incontinence était prévisible, les reins sont atteints, mais ils fonctionnent encore. Vous allez lui placer une sonde, il ne faut pas qu'il reste dans l'humidité toute la nuit. Mais il est toujours inconscient, docteur. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas ce que je voulais dire, docteur. Pensez-vous qu'il puisse reprendre conscience? La progression de la maladie est exponentielle. Les grandes fonctions sont atteintes les unes après les autres. Je suis très pessimiste. Le hors-bord du chef de stage arrive plein moteur vers la flottille. L'homme agite vivement un linge de droite à gauche. Il crie dans son porte-voix.
Au mouillage ou à la plage, tout de suite! Coup de brouillardin imminent! Au mouillage ou à la plage, tout de suite!
Frédéric regarde le ciel qui est devenu laiteux. Vers le sud-est, la montagne est couverte d'une chape grise. Le vent est absolument nul. Au moment où il adresse à Marie-Michel une moue sceptique, une violente rafale de sud déséquilibre le dériveur. Il relâche instantanément les côtes de grand voile, rétablit de justesse l'instable embarcation. Frédéric, si on est pris au milieu de la baie par le coup de brouillardin, la consigne est de filer le plus vite possible s'échouer sur la plage de Saint-Jean. On y va, ma belle, grand largue toute. Sur la plage, les dériveurs ont affalé leur voile. Le moniteur donne les consignes. Le vent est établi à force 7 à peu près. Il va tenir tout l'après-midi et toute la nuit sûrement. Pour l'instant, il n'y a que du clapot, mais dans une demi-heure, on va avoir des grosses vagues, voire des déferlantes malgré la Sainte-Barbe. Il faut rentrer au mouillage rapidement ou faire le tour de la baie à pied. Y en a-t-il qui veulent tenter la traversée contre le vent? C'est possible en prenant plusieurs tours de rouleau sur la baume. Frédéric regarde brièvement sa compagne qui acquiesce le regard. On veut bien essayer. Alors c'est tout de suite. Naviguez au bon plein. Ne cherchez pas le presserré, vous n'avanceriez pas. Allez, embarquez. Vous disposez d'un quart d'heure. Marie-Michel s'est remise au foc. Frédéric entre dans l'eau, pousse la petite embarcation, exécute un rétablissement, saisit l'écoute de grand voile et la barre. Le dériveur s'incline, puis fonce dans le clapot. Les bords se succèdent rapidement, tant est grande leur vitesse. Il n'a pas besoin de donner les ordres de manœuvre. Marie-Michel sait l'instant précis où elle doit filer sa voile et changer de côté. Ils se complètent admirablement bien. Les embruns fouettent les corps et les visages, mais l'excitation les empêche de sentir la fraîcheur des éléments. Le mouillage arrive à grande vitesse. Frédéric estime les 3 longueurs nécessaires pour arriver pile à la bouée. Se place vent de travers en relâchant légèrement son écoute et donne un rapide coup de barre pour se placer face au vent. Le bateau court sur son air, s'arrête à 3 mètres du flotteur et commence à culer. Frédéric peste et ne comprend pas. Il a pourtant parfaitement exécuté les manœuvres qu'on leur a enseignées. « 2 longueurs seulement par ce vent !» lui crie sa partenaire, parfaite équipière. Frédéric repart dans le clapot, tire un nouveau bord et recommence la manœuvre d'amarrage qui réussit parfaitement cette fois. Sur le quai d'accostage, une stagiaire les aborde. « C'était vous, là, sur le 420 numéro 16 ?»« Oui, pourquoi ?»« Eh bien, vous êtes sûr de réussir votre diplôme. Le chef vous a regardé tout le temps et il était aux anges. » Frédéric claque des dents. Il a le corps transi, mais il est heureux intérieurement. Il a compris que Marie-Michel et lui se complètent parfaitement, qu'elle peut l'aider, le conforter, le suppléer. Si seulement elle pouvait trouver le même accord, la même communion dans leur corps. Il a envie de serrer la jeune fille dans ses bras, de l'embrasser, mais comment faire? Les autres sont là, qui ne comprendraient pas. « Marie, il faut changer immédiatement la literie du malade de la 613. Il grelotte. Occupe-t'en pendant que je lui place une sonde. Je vais tout de suite à la réserve chercher des draps. » Chapitre 13. La fin du rêve. Marie-Michel vient d'avoir 19 ans. Frédéric en a 23. Un beau dimanche de printemps s'achève. Heureux, au volant de la 4 chevaux Renault qu'ils ont acheté en commun, Frédéric reconduit celle qu'il considère comme sa fiancée à la porte de son école. Il gare la petite voiture non loin de la grille du portail. Il a bien remarqué que, depuis quelque temps, Marie-Michel ronge ses ongles. Mais il met cette habitude sur le compte de la fatigue physique. Les études sportives sont épuisantes parfois. Ils ne s'embrassent pas au moment de se quitter, car ils ont depuis longtemps décidé de ne jamais manifester d'effusion près de leur école. « Je viens te chercher à quelle heure samedi prochain ?»« Frédéric, il faut que je te dise. Je ne veux pas que tu viennes me chercher samedi. » Dimanche alors? Ni samedi, ni dimanche. Tu as du travail, je comprends. La semaine suivante, je te téléphonerai. Ce n'est pas la peine de me téléphoner, Frédéric. C'est toi qui m'appelleras? Non, je ne t'appellerai pas. Mais comment va-t-on faire pour se voir? On ne se verra pas. Attends, tu veux dire qu'on ne se verra pas la semaine prochaine, ni celle d'après? On ne se verra plus, Frédéric. Marie-Michel, tu ne veux pas dire que... Si, Frédéric, nous deux, c'est fini. Mais pourquoi, Marie-Michel? Pourquoi? Tu ne m'aimes plus? Dis-moi. On va s'expliquer calmement, hein? On va trouver une solution. Il n'y a rien à expliquer, Frédéric. Il n'y a pas de solution. C'est comme ça. Elle n'en dira pas plus. Elle ne s'énerve pas, ne paraît pas fâchée. Un vague sourire d'excuses crispées flotte sur le bas de son visage. Le garçon est pétrifié devant elle. Un long silence s'installe. Soudain, la jeune fille tourne les talons. La silhouette magnifique s'éloigne, marche sans se retourner, entre dans le parc de l'école. Une autre silhouette, toute de noir vêtue, la rejoint. Elles disparaissent derrière les arbres centenaires. La foudre est tombée sur la tête de Frédéric. Hébété, il reste sur place. Des larmes incontrôlables glissent sur ses joues. Incapable de réfléchir, il répète « Pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Non, ce n'est pas possible.
Comme un automate, il retrouve la petite voiture, se laisse tomber sur le siège, appuie ses avant-bras sur le volant, cale son front sur ses mains. Il hurle.
Non !
Quand, longtemps après, il relève la tête, son visage est dur, crispé. Ses yeux sont fixes, sa nuque est raide. Machinalement, il actionne le démarreur, puis se fige à nouveau. Soudain, il emballe le moteur au maximum, tire violemment sur le levier de vitesse. Le véhicule craque horriblement, bondit vers l'avant, dérape, zigzague entre les trottoirs. Là-bas, la rue tourne à angle droit. La voiture se précipite à fond de première vers le mur de la propriété. Dans un hôpital de la région lyonnaise, un samedi 13 décembre à 10h du soir. À bout de souffrance, l'homme a ouvert des yeux qui n'accommodent plus. Il s'est péniblement assis dans son lit de douleur. Des larmes coulent sur son visage émacié.
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Non, ce n'est pas possible.
Marie-Michel, Marie-Michel, pourquoi m'as-tu quitté ?
Il enlève avec peine le pansement élastique qui maintient le trocard de sa perfusion, arrache l'aiguille de survie, ouvre un peu plus la plaie qui meurtrit la veine de son avant-bras. Le sang écarlate coule sur le drap blanc.
Marie-Michel ? Marie-Michel, c'est toi ? Tu es revenue ? Oh, tu as remis ta jupe rouge ? Marie-Michel ? Marie-Michel, enfin tu es revenue. Viens, viens ma belle, viens, allons danser.
Il la prend par la main, l'entraîne sur la piste, entame une valse maladroite. La jupe rouge vole, vole, laisse entrevoir les jambes magnifiques sous les froufrous d'un jupon de dentelle blanche. Il presse son ami dans ses bras, se dirige en valsant vers les lumières de l'orchestre, tout là-bas, au fond du tunnel. La musique devient douce, charnelle, légère. Il ne se sent plus malhabile. Il tourne, tourne, ne fait plus qu'un avec la musique et son ami. Marie-Michel est si belle et si légère dans ses bras. La clarté qui illumine l'orchestre devient vive, intense, aveuglante. Le cœur de l'homme se serre, se serre, se serre.
Fin de la nouvelle « Le jour de la Sainte-Lucie » de Daniel Desjardins. Texte lu par l'auteur.